Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
D'abord, le premier truc, c'est que je sais jamais pour qui voter.
Ok.
Voilà. Moi, je suis d'une famille de droite tradie classique qui se pose pas de questions. Je vis dans un milieu de gauche classique qui se pose pas de questions. Et je sais jamais pour qui voter. Voilà. Donc, ça m'intéressait de passer un peu du temps à suivre ça de près pour mieux comprendre et me faire une opinion plus détaillée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique.
Loin des images d'épinal fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif-podcast. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon.
Ça se passe sur www.patreon.com/senscreatifpodcast. Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires.
Et c'est exactement la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche ?
C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé, à vous d'être créatif.
Donc, si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent, comment tu vas bien ?
Salut Jérémy, bah comment ça va ? Très bien même. Non, c'est cool. J'ai l'impression que le fait que le mois de septembre et le mois d'octobre soient passés, eh ben ça va beaucoup mieux parce que reprise était tendue, intense. Et là, c'est un petit peu, ça retombe un petit peu, même s'il y a plein de trucs à nouveau à faire, mais il est moins dans le rush. Et voilà, c'est hyper agréable. En tout cas, j'apprécie ce nouveau, ces espèces de vacances à la Toussaint là qui arrivent, plus le mois de novembre qui va démarrer. J'adore la période d'Halloween en plus, donc c'est bien, c'est cool, c'est un bon moment pour moi.
Et toi ? Moi, je pars en vacances dans 2 jours, mais quand vous écouterez cet épisode, mes vacances seront déjà passées. Mais voilà, on vous a pas oublié, on en a profité pour enregistrer du coup cette petite intro. On a quelques petites news spécifiques pour cet épisode qu'on avait envie de vous donner.
Il y a même une grosse news là.
Et il y a même une très grosse news. Oui, on vous annonce la sortie du Patate Artbook. Si vous êtes familier de l'univers Sens Créatif et du Patate Club, vous en avez déjà forcément entendu parler. Mais là, les gars, c'est officiel. Le livre sort le 5 décembre. Il est déjà disponible en pré-vente sur le site des éditions exemplaires. Mais si vous êtes sur Paris et si vous venez notamment au Salon du Livre de Montreuil, en même temps, nous, on organise le 3 décembre au bar Le Gallia à Paris le lancement du Patate Artbook avec tous les membres du Patate Club. Donc venez faire la fête avec nous. Pour ceux et celles qui ont loupé, c'est quoi le Patate Artbook ? Laurent, c'est quoi le Patate Artbook ?
Le Patate Artbook, en fait, c'est un recueil collectif des membres du Patate Club. En même temps, avec plusieurs guests, on peut les citer. D'ailleurs, il y a Serge Bloch, il y a Emily Gleason, Jean-Julien, Tiffany Cooper, Tom Hamp, Marion de Mellonner, Benjamin Flou, Aurélien Janet, Claude, etc., etc. Et évidemment, beaucoup de membres du Patate Club. Et donc, en fait, ça fait un magnifique ouvrage collectif.
Gros
sur le thème de la patate.
De la patate, parce qu'on l'a ou on l'a pas, mais nous on l'a et on a envie de vous la donner. C'est un gros projet qui était dans les tuyaux depuis un bout de temps.
Ouais, et d'ailleurs on remercie, un grand merci à Florie et Charlotte, Florie Briand et Charlotte Molas qui nous ont vraiment super aidés sur la direction artistique et la fabrication du livre.
Elles ont piloté le projet de main de maître. Quoi d'autre ? Ah oui, il y a quoi dans le artbook, parce qu'on a dit qui participait.
Ah oui, tu dis ce qu'on trouve à l'intérieur du hardbook.
Ce qu'on trouve à l'intérieur.
Il y a des belles illustrations, pleines pages. Il y a des bandes dessinées, des petits strips. Il y a même du paper toy. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que j'ai oublié encore?
Non, je pense que c'est plus ou moins
de l'érotisme.
Ça. Une pointe d'érotisme, un max d'amour et beaucoup d'humour. Donc c'est tout ça dans le livre.
C'est vrai quand même. Avec de la patate, incroyable.
Ouais, c'est particulier. Mais pour ça, il faut voir, il faut regarder le livre. Donc voilà. Et le livre sort. Donc c'est très très cool. Et on a envie de faire la fête avec vous tous et vous toutes. Donc si vous êtes sur Paris, venez le 3 décembre, donc à partir de 16h, soirée de lancement et dédicace, venez rencontrer les membres du Patate Club, des guests, ainsi que Lisa Mandel des éditions Exemplaires et peut-être d'autres auteurs, autrices des éditions Exemplaires qui seront présents.
On sait pas encore, surprise.
On sait pas encore qui, mais allez voir sur leur site, il y a vraiment des personnes, j'imagine que vous, si vous aimez la bande dessinée, que vous suivez, qui seront peut-être là. Donc c'est une soirée Patate Club et éditions Exemplaires. Soirée raclette géante. Ça, c'est
ah ouais
cool comme ab. Oui.
Puis avec de la bière, alors.
Avec de la bière.
Modération.
Parce que c'est le Galia qui régale. Et vous connaissez probablement la bière.
La Galia.
Ouais. Et ça se passe au Galia.
Ouais, je pense qu'on peut dire ça, ouais.
On le bar du Galia. Comme ça. On aura aussi, le plaisir d'avoir, un concert à partir de 21h. Mm-hmm. C'est le groupe de rock lillois Random Setcom, dont notre pote Florian Allen, aka Florianosaur, fait partie. Donc, c'est un membre du Patate Club, donc ça va faire très très plaisir.
C'est quoi, c'est du punk garage? Un peu comme ça, tu vois, c'est ça?
Ouais, ça va balancer dans les chaumières, donc ça va être bien cool. Et aussi un petit marché de créateurs, donc, et de créatrices, des membres du Patate Club qui viendront vendre des goodies, de la micro-édition, des prints, vu que c'est
la
période Noël.
C'est
la fête de l'image. Exactement. Donc tout ça pour dire que le livre sort. Venez faire la fête avec nous le samedi 3 décembre au Galia à Paris. Ça va être chouette. L'occasion de rencontrer plein d'artistes, de faire la fête, de manger de la raclette, d'écouter du rock, de se choper des dédicaces.
Oh, j'ai eu peur, je croyais que t'allais dire qu'on allait choper le Covid ou un truc comme ça.
Non. Mais, faites attention quand même, hein, mais, le mec. Voilà.
Et aujourd'hui, Jérémy, on reçoit Mathieu Sapin et Dorothée de Monfred pour leur projet commun qui s'appelle Carnet de campagne, qui est un album de BD qui est sorti en coédition d'Argo et Le Seuil. Et en fait, on voit avec eux tout simplement leur cheminement pour mettre en place le projet, suivre tous les candidats de la campagne présidentielle 2022. Et notamment, en fait, c'est un ouvrage qui a été fait avec 6 dessinateurs et dessinatrices. On peut les citer. Il y a Louison, il y a Coco Pello, il y a Lara, qui est un garçon, on précise, hein, et Morgane Navarro. Donc en plus de Dorothée et de Mathieu.
Et c'est toi qui m'avais parlé de ce projet.
Exactement. Très, très bon, en fait, cool. ça m'a fait un petit, m'a réveillé une petite flamme en fait, parce que il faut savoir que Mathieu et Dorothée sont de ma génération. Et quand j'ai commencé à bosser, Dorothée était directrice artistique chez Nathan, et donc du coup j'ai eu l'occasion de bosser avec elle. Et il m'est arrivé de croiser Mathieu en fait sur des projets de presse dans lesquels on était en même temps. Et donc en fait on s'est rencontrés comme ça, et de voir qu'ils avaient finalement fait un projet ensemble, moi ça m'a trop fait kiffer. Je me suis dit, tiens, ce sont deux personnes de ma génération que je connais, dont je suis le travail depuis longtemps. C'est vraiment trop l'occasion d'aller les rencontrer. C'est pour ça que je t'ai proposé de parler de ça. Et en plus, enfin, le sujet, c'est quand même un sujet qu'on n'a jamais abordé sur, oui, sur Sens Créatif, parce que c'est le thème en fait de la politique, et puis surtout du reportage, ce qu'on appelle le reportage gonzo. En fait, en gros, en fait, c'est quand on est journaliste, en fait, on se met en scène aussi bien que le reportage qu'on fait, et donc c'est une sorte d'autobiographie assez active, on va dire.
Explique-nous un petit peu le concept de la BD, parce que je pense pas qu'on l'a expliqué.
Alors le concept de la BD, en gros, les 6 dessinateurs et 6 dessinatrices sont amenés à suivre un candidat ou plus de l'élection présidentielle. Donc c'est le premier tour et le second tour. Et donc en fait, bah, la difficulté, c'est déjà de rentrer dans les différents partis pour pouvoir aller suivre le ou la candidate en question.
Ouais. Et puis moi, n'étant pas forcément très politique ou ne comprenant pas forcément trop les enjeux, notamment en France, c'était vraiment l'occasion pour moi de plonger, d'aller voir les coulisses. Et j'ai appris des tonnes de choses, et je pense que ça m'a fait conscientiser des trucs. Donc c'était vraiment l'occasion, à travers voilà la bande dessinée, d'avoir cette sorte d'entrée dans un peu les coulisses de la politique française. Donc
ouais, puis c'est une posture particulière, puisque n'étant pas forcément journaliste en fait, puisque ce sont des dessinateurs, des dessinatrices, ils sont perçus en fait d'une manière complètement différente des journalistes que les candidats ont habituellement l'occasion de voir et à répondre à leurs questions, parce que c'est ça, c'est aussi il y a une espèce de jeu hyper tacite là-dessus.
Oui, et puis ce petit côté, oh, vous êtes dessinateur, dessinatrice de BD, oh, c'est gentil, pas de problème, allez-y, tu peux,
voilà, donc on parle beaucoup infiltration aussi, comment infiltrer infiltrer les réseaux, comment rencontrer et faire finalement des petits sauts de puce pour arriver à avoir une matière narrative en fait pour le livre. Et ce qui est génial, c'est que voilà, c'est tout est mélangé, c'est dans l'ordre chronologique, mais on passe d'une histoire à l'autre et c'est hyper passionnant.
Ouais, une très belle rencontre, la conversation était hyper chouette, on était dans l'atelier de Mathieu et c'était bonne ambiance, on a abordé des tonnes de sujets et je suis vraiment ravi de cet épisode que vous vous apprêtez à écouter. Et il me semble, Laurent, que Dorothée de Manfred, il y avait un autre truc que t'aimais bien chez elle.
Ah oui, bien sûr. Bah en fait, c'est ce qui me fait toujours kiffer, c'est quand on a des artistes qui sont capables de faire beaucoup de disciplines différentes. Et Dorothée notamment, c'est une musicienne et chanteuse aussi. Et elle joue notamment du ukulélé. Alors si vous avez l'occasion d'aller sur internet taper Dorothée de Manfred ukulélé, je pense que vous aurez des bonnes petites surprises. Et notamment, on va vous passer un morceau de Dorothée.
Oui, à la fin de l'épisode, toute fin de l'épisode, donc restez jusqu'au bout, vous aurez l'occasion d'écouter le morceau « Je reviens », issu de l'album « Super Sauvage », qui est un album jeunesse. Tu l'as chez toi, Laurent, cet album ?
Non, j'ai pas l'album.
Ok, alors attendez, juste pour mettre le contexte, « Super Sauvage », c'est un album qui est sorti en 2011, c'est l'histoire de Pipo, un petit chien qui, lassé de la vie domestique, rêve de devenir sauvage. En cavale, il rencontre le chat Attila. En une journée, leur aventure nous emmène de la ville jusqu'à la forêt, nos amis réussiront-ils à devenir vraiment libres ? Donc on n'en parle pas pendant l'épisode, mais on se voyait pas vous laisser sans une petite note de ukulélé, parce que voilà, on a eu l'occasion d'avoir Dorothée. Donc restez jusqu'au bout, vous pourrez écouter le morceau, donc je l'ai déjà dit, je le redis, je reviens issu de l'album Super Sauvage. Si vous connaissez pas l'album, allez vous le procurer. Et ce morceau a été composé par Tony Truant et écrit par Dorothée de Manfred. Et vous entendez aussi, évidemment, Dorothée faire du ukulélé sur ce morceau. Voilà.
Et puis on peut faire aussi un petit jeu. C'est-à-dire que Dorothée est la maman de quelqu'un qui est déjà passé sur le podcast. Saurez-vous la reconnaître ?
Envoyez vos réponses au 3615. Je sais pas si on le mentionne au début de l'épisode.
Si on le mentionne, c'est pour ça. Faites
attention.
Dans l'épisode.
Mais si vous n'avez pas écouté cet épisode avec quelqu'un qu'elle connaît, allez l'écouter. Voilà. Et sur ce, on vous laisse écouter notre épisode avec Mathieu Sapin et Dorothée de Manfred. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, on est dans l'atelier de Mathieu Sapin avec Dorothée de Manfred. On est dans un atelier un petit peu célèbre parce que
bonjour, il y a célèbre ici dans cet atelier, il y a Christophe Blin et moi donc qui travaillons ici, on a chacun une pièce.
Ouais. Voilà. Mais il existe depuis 10, 15 ans.
Ah, alors, tu voulais parler du passé.
Non, alors cet atelier est la deuxième forme d'un atelier précédent où il y avait Riyad Satouf et Johan Sfar.
C'est ça.
Qui s'appelait la Société Nationale de Bande Dessinée. Mais qui était pas dans ce lieu même. C'était un autre lieu.
Ah, c'était ailleurs. Ouais, d'accord. Ah, je pensais fouler un sol historique, mais en fait, non.
Ah non, mais après, voilà.
C'est complètement raté.
Ah ouais, zut.
Bon, je vois l'atelier est comme un très intéressant. Et de quoi poser les yeux.
Mais, non, voilà, il y a la moitié de cette petite bande-là.
Super. Bon, du coup, on est très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est un peu une première pour le podcast qui en a déjà presque 80 épisodes, mais on n'a quasi jamais parlé politique, bien qu'on sait que tout est politique en soi. Mais grâce à vous, grâce à votre bande dessinée collective Carré de Campagne, on aura l'occasion de pouvoir un petit peu en parler aujourd'hui. Et est-ce que pour commencer, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, vous pourriez brièvement vous présenter chacun et nous dire ce qui vous motive également à sortir du lit le matin?
Alors, donc moi je m'appelle Dorothée de Manfred, je suis dessinatrice et autrice. J'aime sortir de mon lit le matin d'abord pour aller manger un œuf à la coque, bon, pour être très prosaïque. Ensuite, dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est toujours paradoxalement d'essayer de comprendre ce que c'est qu'un être humain. Alors, je dis que c'est paradoxal parce que j'ai beaucoup dessiné d'animaux, mais moi c'est plutôt des animaux avec des rôles d'humains que je dessine et ça me permet d'avoir une certaine distance. Et en fait, je me rends compte que c'est toujours un peu ça que je recherche, quoi, essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Ouais. Parce qu'on est tellement différents, c'est drôle.
Donc Mathieu Sapin. Alors moi, ce qui me fait lever le matin, c'est j'adore aller travailler au café dans un premier temps. Donc j'aime bien sortir de chez moi un peu tôt et puis aller écrire, mais lire aussi dans les cafés. Et pendant une heure.
C'est ton rituel tous les matins ?
Dans la mesure du possible, mais ouais. J'aime bien noter des idées. Enfin, c'est le matin que je suis l'esprit le plus...
Pour beaucoup de personnes, c'est le matin.
Après ça s'émousse, Mais en général, j'écris le matin, je dessine l'après-midi.
Mais ça me fait tellement rêver ce que tu dis. Moi, je suis à fond du matin aussi, et je sais que si je commence pas direct tôt le matin, ça marche pas, et je suis vraiment efficace pareil pour écrire le matin. Je sais pas pourquoi je fais pas ça, parce qu'en fait, quand tu me le dis, mais ça me fait hyper envie, quoi.
Ah, mais je ressens la même chose. C'est pareil. Si le matin, j'ai pas démarré, c'est la journée, c'est dur, quoi. Puis du coup, je me venge la nuit, et là, c'est pas bon, quoi.
Ah non, ça, moi, la nuit, je dors, mais c'est tout.
C'est un hibou.
Ah ouais, mais je fais de moins en moins.
Mais encore mieux que le matin, il y a le lundi matin. Pour moi, le lundi matin, c'est une sorte de matin au carré. Et si on réussit son lundi matin,
la semaine,
là, c'est au top toute la semaine.
Mais si tu le foires...
Si je foire, bah...
Aïe, aïe, aïe. La malédiction.
Alors, ce qui est très drôle, c'est que, on en parlait un tout petit peu en off, quand j'ai interviewé ta fille, Dorothée, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu le plaisir de te rencontrer un petit peu juste après. On a échangé quelques mots.
Tu parles d'Adèle.
Oui, oui, quand j'ai interviewé Adèle.
Déjà, on le reprécise.
Ouais, c'est ça, ouais. Et quand je suis sorti de chez vous, je l'ai parlé à Laurent, parce que Laurent, c'est un grand ami à moi depuis très longtemps, et je disais, j'ai interviewé Adèle, machin. Et j'ai rencontré ses parents, et puis son illustrateur également. Et en fait, je connaissais pas du tout ton travail, en fait. J'avais pas conscience de qui tu étais. Et puis, du coup, il me dit, mais c'est qui sa maman et tout? Et puis, je dis, Dorothée de Manfred, tiens, je t'envoie son Instagram. Et là, il m'a fait, quoi? T'as rencontré Dorothée de Manfred? Mais c'est un truc de fou. Et lui, en fait, il te connaissait déjà, en fait.
Voilà. Bah oui, complètement. Mais en fait, on est des enfants des années 70 avec Mathieu et Dorothée. Donc, on a connu une autre époque, en fait, où on allait, démarcher avec des boucs, tu vois, sous la main. Il y avait pas, Instagram et tout
dans
ça.
Dans l'ancien monde.
Ouais, c'était lourd. Il fallait faire des tours dans Paris pour voir tout le monde. Et du coup, ouais, Dorothée, c'est une des premières personnes, en fait, qui m'a fait travailler en pixel art, pour de la presse jeunesse. Donc ça c'était top. Donc je te remercie à nouveau de m'avoir permis de faire ça. Ça c'est super cool. Et puis c'était l'époque aussi où en bande dessinée c'était la période un petit peu magique de l'association. Il y avait aussi Capsule Cosmique. Il y avait plein de super projets à l'époque, quoi. C'était vraiment passionnant, quoi.
Alors à l'époque, oui, où je t'ai fait travailler, c'est parce que j'ai été pendant 2 ans chez Nathan. J'étais maquettiste et j'étais en charge de la revue Superscope.
Ouais.
Ce qui était chouette chez Nathan, c'est que c'était une organisation complètement verticale. Donc en fait, je faisais tout sur la revue, quoi. Je pouvais choisir qui je voulais pour illustrer le journal.
C'était de l'autre côté du miroir.
Ouais, voilà. Et puis en fait, le directeur artistique me faisait complètement confiance. Moi, j'en faisais 10 fois trop, parce que généralement, je faisais les crayonnés de tout avant de le passer au dessinateur, ce qui plaisait pas toujours. Mais du coup, j'ai appris mon métier comme ça. Et puis alors, tu parlais de Capsule Cosmique aussi, ce qui était autre chose. C'était peut-être 2 ans après.
Ouais.
Moi, je faisais partie d'un atelier dans lequel on était 7. Et c'est à l'initiative de Gwen de Bonneval qu'on a monté ce journal de bande dessinée qui a été publié chez Milan.
Ah, puis il y avait beaucoup, beaucoup d'auteurs, d'autrices dedans. C'était,
c'est marrant de voir le parcours de chacun aujourd'hui. Ouais.
Bah, tu vois la liste, toi.
Il y avait... moi, j'ai fait des pages, d'ailleurs, en Capsule.
Ouais.
Mais il y avait Lisa Mandel, Henriette Satouf.
Marion Montaigne.
Marion Montaigne. Mais bien plein d'autres qui étaient tout jeunes auteurs, quoi.
Catherine Meurice.
Ouais.
Ah ouais, punaise, tout ce beau monde.
Ah oui, si vous allez sur Internet, vous tapez Capsule Cosmique, vous verrez une belle liste.
Parce qu'on n'a pas le même âge, hein. Moi, j'ai presque 34 ans. Je tairai l'âge de l'homme. Mais du coup, il y a des références où il y a une dizaine d'années entre nous qui...
Ouais, ouais. Non, mais après, ce qui est marrant, c'est que c'est aussi une génération, enfin, la génération à laquelle on appartient. On fait vraiment la jonction entre, le côté, illustration à l'ancienne, papier, et, pré-internet et cette révolution numérique qui est arrivée en 2000 finalement. Moi, ma première adresse email, je l'ai dû l'avoir en 96, tu vois. Et
ben,
comme plein de gens à peu près, mais
oui, bah, ouais, pendant que tu étais étudiant.
Voilà. Mais donc moi, quand j'étais étudiant, il n'y avait pas les ordinateurs, c'était beaucoup moins répandu. Enfin, il y en avait bien sûr, mais c'était pas un truc automatique, quoi.
Ouais.
C'était plutôt les gens qui faisaient de l'illustration au moyen de Photoshop ou d'autres. C'était pas si courant, quoi.
Et comment vous avez vécu la transition, du coup, entre vos études et puis la révolution numérique?
Bah, ça s'est fait naturellement, hein, parce que tout le monde s'y mettait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est compliqué. C'est à l'inverse compliqué pour quelqu'un de d'aller dessiner sur papier, d'être à l'ancienne, quoi.
Je sais pas si c'est si vrai que ça. J'ai l'impression qu'il y a à la fois une espèce de pratique complètement naturelle du numérique, mais il y a aussi parfois un peu un rejet de ça et un goût pour le fait à la main, justement.
Mais c'est un positionnement.
Ouais, c'est un positionnement. C'est un choix revendiqué.
Et je pense que l'iPad ça démocratise beaucoup les choses, mais ça fait du mal aussi parce que ça uniforme énormément. C'est très.
On peut plus exposer des originaux aussi.
Bon, ça c'est pas très important. Enfin, c'est pas grave ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça formate. Ouais. Même si t'as l'impression d'une immense liberté avec l'iPad, ça tout de suite, ça t'enferme dans un truc.
Faut pas oublier de faire son propre outil et de décider ce qu'on veut faire, et que ce soit pas l'iPad qui décide.
Ah, tu vois, moi j'ai beau faire du numérique, j'ai comme l'impression d'être de l'ancienne école. Et je vois, j'ai pas d'iPad, mais je fais tout en numérique quand même.
Oui, tout.
Depuis longtemps.
Ouais. Ça me fait toujours très étrange d'ailleurs quand je te vois dessiner, vraiment dessiner. Ouais.
Et toi, Mathieu, t'as surtout été connu au départ pour une BD qui s'appelle Super Murgeman.
Oui.
Avec la Super Murgebière.
Oui, c'est
ça. T'as sorti des arts déco. Ah oui, d'ailleurs, il est là.
Tu vois, ce dessin, ça, je l'ai fait quand j'étais étudiant. Mais je l'ai fait premier degré, hein. Et aujourd'hui, bah, il s'est réalisé, tu vois. Un jour, je serai un grand dessinateur de BD, plein de fric et adulé des femmes. Et avec derrière, Super Murgeman derrière moi qui me dit, continue petit, tu vas y arriver. Et donc, ce dessin, il date de 98.
C'est beau.
98.
C'est beau.
Avec une trame faite sur Photoshop, mais vraiment basique, quoi, pour le coup.
Ce personnage-là, il t'est venu comment? Parce qu'en fait, il a un background qui est extrêmement complexe. Et dedans, d'ailleurs, ça, c'est un petit peu politisé par moment, d'ailleurs, je trouve.
Ah oui, on en vient au sujet.
Tu vois ce que
je veux dire? Oui, ouais, bah, écoute, Super Murgeman, moi c'est surtout que j'ai eu la chance de croiser la route de Karali, qui était donc le rédacteur en chef de Psychopathe, on en parlait l'autre jour, et Karali donnait sa chance comme ça, enfin c'était au coup de cœur, donc il n'était pas du tout à réfléchir si il avait en face de lui un auteur connu ou pas connu ou quoi, c'est juste si ça l'amusait, si ça lui plaisait, il disait ok vas-y. Et à l'inverse, si ça lui plaisait pas, il s'en foutait, que ce soit un nom connu ou pas. Et donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir commencer comme ça dans le psycho, et avec une liberté totale. Et donc, c'est ce personnage de Super Murgeman que j'avais commencé à dessiner dans des petites pages pour un fanzine de l'école où j'étais étudiant, les Arts Déco à Strasbourg. Mmh. Et puis il m'a dit, ouais, vas-y, si tu peux m'en faire d'autres. Et donc j'ai fait à chaque fois, c'était un gag en une page. Et pour présenter le truc, c'est un super-héros très premier degré, un peu... sur le format des super-héros des années 40, 50, genre le fantôme du Bengale ou Mandrake, sauf que lui, il vit aujourd'hui, mais enfin lui, c'est un peu comme OSS 117, c'est-à-dire que lui, il est toujours dans le premier degré, mais le monde autour de lui a évolué. Et le dessin, au départ, ouais, c'était un dessin très, très, justement, référencé ces années-là. Mais il y avait un côté Pierre Lapolis aussi, qui avait fait Mandrake, justement, des reprises de Mandrake. Et c'est des BD, quand tu les lis aujourd'hui, quand tu lis Mandrake ou Le Fantôme, j'en ai là, c'est très drôle, en fait, parce que c'est...
Ah, comme les Blake et Mortimer, en fait, la manière de raconter,
c'est complètement réac,
qui a redondance tout le...
Les personnages féminins, c'est des caricatures, mais il n'y a aucune intention, il n'y a pas du tout de second degré, quoi, c'est vraiment... Et les dialogues sont très niais, enfin, et voilà, donc je jouais avec ça, quoi.
Et tu disais tout à l'heure que c'était un chouï politique, mais on se demandait aussi dans votre arrière-plan familial, est-ce que la politique c'était un sujet dont vous parliez un petit peu à la maison, est-ce que c'était un sujet?
Moi non.
Pas spécialement, ça peut arriver. Enfin moi mes parents parlaient volontiers de tout, donc il pouvait arriver qu'il y ait une question qui arrive comme ça à table dans une discussion, mais enfin c'était pas
pas le sujet.
C'était pas vraiment le sujet central, c'était pas du tout des militants. D'accord. Non.
Bah moi j'avais c'était surtout mes grands-parents grands-parents du côté de mon père qui étaient très très Mitterrand à fond voilà, qui faisaient les manifs et tout, mais c'était pas non plus un truc j'avais pas l'impression de baigner dans une ambiance politique avec, je me rappelle pas spécialement, de discussions à table, de choses comme ça. Mais pour Super Murgeman, la politique, oui, elle arrive dans le sens où il y a une forme de condamnation, mais c'est pas non plus de la société de consommation, et puis des travers
des
multinationales, et puis de notre époque actuelle. Mais c'est pas politique au sens... politicien avec des, je crois pas avoir parlé de d'hommes politiques français ou.
Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de vivre en ce moment en fait, les enjeux justement qui sont un petit peu globaux, un petit peu mondiaux justement avec l'industrie, l'écologie, etc.
Ouais.
Et je trouve qu'il y avait un petit peu ça aussi.
Oui bah
dedans, déjà quoi.
Une forme de cynisme quoi et Super Murgeman au milieu de tout ça se rend pas du tout compte évidemment puisqu'il est pas équipé du second degré donc il voit pas tout ce qui est l'hypocrisie qui caractérise quand même beaucoup certains aspects de notre société d'aujourd'hui lui il le voit pas quoi.
Ouais, carrément. Mais alors du coup Super Murgeman c'était de la fiction. Comment tu as fait la transition pour passer de la fiction et pour venir justement au reportage dessiné?
Par le jeu des rencontres, moi j'avais donc je partageais un atelier comme on l'a dit tout à l'heure avec Johan Sfar, avec Riyad Satouf et Christophe Blin. Et donc, bah, tous ces gens ont fait des albums qui commençaient à explorer ces terrains-là, que ce soit Riyad avec Retour au collège, Christophe avec Quai d'Orsay, Johan, bon, plus dans ses carnets peut-être, mais... La première occasion que j'ai eu de suivre le réel, c'était justement en suivant le tournage du premier film de Johannes Fark, Gainsbourg, Vie héroïque, mmh. où bah, il m'a été proposé de suivre le tournage et de raconter ça dans un carnet. Et j'ai adoré cet exercice. Et lors du tournage, j'avais sympathisé avec le photographe de plateau, qui s'appelait Jérôme Brésillon. Et Jérôme travaillait beaucoup pour Libération, il faisait des photos pour Libé. Et c'est lui qui a eu cette idée en me disant « Tiens, tu devrais rencontrer l'équipe de Libération parce que c'est très un journal très pas comme les autres et tu pourrais aussi faire un carnet où tu racontes la vie du journal comme ça. » Mais c'est vraiment lui qui a eu cette idée. Moi, ça me serait jamais venu à l'esprit. Et donc, je lui dis « Ouais, bonne idée. » Alors ça, c'était dans une soirée de lancement de Aya, d'ailleurs, Aya de Pougon. Et mais comme dans une soirée, tu dis ouais super idée, et puis voilà, tu passes à autre chose. Ouais. Et sauf que la semaine après, il m'a appelé en me disant ouais, ben j'en ai parlé à Libé, ils sont d'accord, donc là ils t'attendent demain, t'as rendez-vous avec le directeur.
Ok,
d'accord.
Et donc je suis vraiment pas du tout responsable de mon destin, tu vois.
Tu t'en mais doutais ça, pas, mais ça a tout changé à ce moment-là.
Et ça a changé beaucoup de choses, ouais, c'est vrai.
Ça t'a amené du coup par la suite à bah ces 10 dernières années, t'as fait plein de bandes dessinées.
Bah, je me suis retrouvé embarqué quoi. C'est-à-dire embarqué, que bah, c'est le nom de la collection.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mathieu Sapin, l'homme qui dit oui.
Voilà, c'est ça.
C'est le slogan, ça.
Et c'est vrai que le réel, une fois que tu te fais prendre là-dedans, c'est très difficile de t'en défaire parce que Libé, c'était passionnant. Tu te retrouves au premier plan, enfin témoin direct de plein de trucs passionnants. Et puis, c'était en 2011, donc pendant la préparation de la campagne présidentielle de 2012. Et donc, j'ai enchaîné comme ça. Libé m'a proposé de suivre la campagne. Mais j'y suis allé, je connaissais absolument pas la politique. J'étais jamais allé voir un meeting.
Ah ouais, c'était grand bain, quoi.
Oui, mais progressif. C'est-à-dire que c'est pas qu'on te jette... tu vois un premier truc, tu te dis tiens c'est marrant, j'ai envie de voir ce qui va se passer après. C'est comme une série télé et t'as vu le premier épisode, t'as accroché, tu veux voir la suite. Et puis tu travailles 10 ans plus tard en disant mais j'ai qu'est-ce qui s'est passé quoi.
Et comment du coup t'as fait pour te faufiler au tout début dans les arcades du pouvoir, parce que on a bien compris aujourd'hui qu'avec Carnet de campagne, le badge pour pouvoir rentrer un peu partout c'est Mathieu Sapin. Mais à l'époque quand t'as commencé tout ça, comment t'as fait pour te faufiler, notamment pour ta première bande dessinée campagne présidentielle?
Eh ben, la BD sur Libération justement m'avait aidé parce qu'elle avait été publiée dans le journal tout au long de l'été 2011. Donc il y a des gens, il y en a plus beaucoup, mais il y a quand même des gens qui lisent Libération. Donc déjà ça, je pouvais dire oui, j'ai fait la BD dans Libé. Les gens disaient ah ouais, j'ai vu. Donc ça permettait un petit peu de rassurer.
Ouais.
Et puis après, c'est beaucoup d'opiniâtreté, d'obstination, et donc quand on te dit non, t'essayes, tu réinsistes, sans aller trop loin non plus. Hein, c'est pas le but de faire violence aux gens, mais le luxe, ce que je dis souvent, c'est que le luxe que j'ai, c'est d'avoir du temps, et donc tu prends le temps qu'il faut pour approcher, pour observer, et évidemment, c'est pas en 3 jours que tu peux faire le tour d'un sujet comme celui-ci. Quoi.
Pourquoi c'est un luxe d'avoir le temps?
Ben parce que c'est un luxe parce que la plupart dans ce milieu-là, dans le milieu politique, les gens n'en ont pas du temps.
Mmh. Ça doit aller vite, l'info, elle doit sortir.
Et que ce soit les journalistes ou les hommes et femmes politiques, ils sont tout le temps au taquet. Et donc les journalistes, ils sont témoins d'un événement, ils doivent faire une restitution le jour même. Donc ils n'ont pas du tout le recul. Eux, ils ont ce que je n'ai pas, c'est-à-dire une analyse hyper fine du truc, ils connaissent toutes les références, mais ils n'ont pas le recul pour essayer de comprendre qu'est-ce que je suis en train de voir, de vivre.
Ils sont assujettis au temps médiatique aussi, ce que toi tu n'es pas.
Oui, et puis ils sont aussi assujettis dans le sens aussi où ils doivent rendre compte de quelque chose. Alors que nous, là, quand on était sur le terrain de cette année-là de la campagne, bah des fois tu vas voir un événement, puis il t'inspire pas du tout, il s'est rien passé d'incroyable, donc bah tu en parles pas. Quoi.
Ouais, t'es pas obligé de sortir un papier.
C'est ça.
Alors la BD reportage, toi t'es rodé à l'exercice depuis une dizaine d'années, mais pour toi Dorothée c'était un peu une première il me semble, t'avais déjà fait des bandes dessinées adultes, dont Les choses de l'amour aussi que j'ai chez moi, que j'adore, je l'ai amené aujourd'hui.
Et d'Ambrosie aussi.
Également, mais c'est sûr que ton travail est plus connu pour ton travail jeunesse, plus de 50 bouquins, c'est un truc de fou. Mais on a pu lire aussi que t'avais envie depuis un bout de temps avant que Mathieu te contacte de travailler plus pour des sujets plus adultes. Qu'est-ce qui a fait que tu avais plus envie de te diriger par là?
Bah, c'est parce que déjà j'aime bien faire des choses nouvelles. J'ai pas envie de refaire ce que j'ai déjà fait, donc j'ai envie d'explorer un peu tout. Moi, j'ai jamais décrété un jour que je ferais que de la jeunesse, quoi. Mmh. C'est juste que ça s'est trouvé comme ça parce que j'ai rencontré Grégoire Solotareff, qui est mon éditeur à l'École des Loisirs, et que j'ai une super entente de travail avec lui. Donc c'est un plaisir. Donc j'ai envie de continuer. Et je sais que c'est stimulant, quoi, de travailler avec lui. Donc bah j'ai continué. J'en ai fait beaucoup. J'avais pas jusqu'à présent fait le même genre de rencontres en bande dessinée. Et puis j'étais occupée ailleurs, voilà. Mais c'est vrai que là l'envie de faire d'autres trucs a augmenté, peut-être aussi parce que mes enfants ayant grandi, voilà, je me suis un peu détachée de la petite enfance au sens strict.
C'est vrai que tes histoires, elles grandissent avec tes enfants. C'est frappant,
oui,
quand même.
Oui, mais alors moi, c'est pas du tout le fait d'avoir des enfants qui m'a déclenché l'envie de faire ça, hein, parce que j'ai commencé avant. Et, mais je constate aujourd'hui que ouais, je me sens moins connectée avec ce truc-là que j'ai pu l'être avant. J'avais très envie de faire des choses pour adultes depuis, ouais, disons que j'avais cette intention depuis toujours, hein, et je me suis mise peut-être pour la première fois avec Ada et Rosie à faire vraiment un truc qui, pour dans ma tête, était pour adultes, mais j'ai remarqué qu'il y a eu parfois des malentendus. Et
parce que c'est des personnages.
Bah, c'est animalier, en fait. Ouais, parce que il faut que je raconte que Ada et Rosie, au départ, je voulais en faire une BD jeunesse. Donc j'avais fait tout un découpage, 80 pages, c'était une fiction basée sur des choses réelles, mais bon, avec quand même beaucoup de choses inventées. Et puis une fois que j'ai eu fait ce découpage de 80 pages, l'éditeur n'a pas voulu le livre.
Ah bon, c'est
après chaud. M'avoir incité à demander une bourse et tout, que j'avais obtenu, donc voilà, je me retrouve sans éditeur. Donc là, j'étais un peu dégoûtée. J'ai mis le livre sur une étagère loin. J'ai fait autre chose pendant un an, et puis quand je l'ai ressorti, je me suis dit mais en fait, je préfère autre chose, quoi. Qu'est-ce qui m'a motivée à faire ça au départ? Donc j'ai remis en question le public de cette série. Je l'ai rapproché de moi. J'ai mis un peu de temps à trouver le rythme. C'est-à-dire qu'au départ, comme je faisais une fiction, c'était des séquences plus longues, donc j'ai mis un peu de temps à trouver ce rythme de gag en une page qui est hyper naturel finalement. Mmh. Mais j'ai gardé la forme animalière, en fait, qui vient de l'époque où c'était un projet jeunesse. Et aujourd'hui, je pense que si j'avais ce même projet, je le dessinerais de façon complètement différente. Et peut-être qu'il marcherait mieux d'ailleurs, je sais pas. En tout cas, à l'époque, j'étais sur cette ligne-là. Après, c'est un peu différent graphiquement de ce que je fais en album jeunesse, parce que c'est des planches et tout ça. Il y a un peu des cases dessinées à la couleur, mais bon, ça se rattache plus à mon travail jeunesse que ce que j'ai fait par la suite en BD, quoi. Donc ça, c'était le premier truc avec de la réalité dedans pour les adultes. Mmh. Et puis depuis, bah, j'ai tout le temps envie de faire ça, en fait. Là où j'ai eu une espèce de point culminant, c'était pendant le premier confinement. Moi, ça m'a déprimée à mort. C'était horrible parce qu'en fait, j'ai obéi. Je suis pas allée à l'atelier pendant tout le confinement. Et alors moi, on m'empêche de travailler, je meurs, quoi. Donc vraiment, ça n'allait pas. Et à ce moment-là, il y avait un festival auquel j'étais censée aller, mais qui a dû être annulé, qui m'a demandé de faire des pages de BD pour c'est le festival d'Amiens. Il fallait faire des pages pour le journal du festival. Ils ont maintenu cette demande. Et donc, j'avais le choix entre faire des pages jeunesse ou alors répondre à une interview. Et moi, j'avais envie de faire ni l'un ni l'autre. J'ai proposé de répondre à l'interview sous forme de BD, pas pour enfants. Voilà. Mmh. Et là, j'ai fait ce truc. Donc, c'est vraiment, je me dessine en train
on
de recevoir des questions.
On peut le voir sur ton
questions.
Site, hein, je crois, non?
Oui, je l'ai mis sur
ouais,
mon site.
Ouais, je l'ai vu.
Ouais, à la rubrique à propos. Et en fait, mais pour moi, ça a été le truc le plus facile à faire de ma vie et le plus plaisant à faire de ma vie. J'étais hyper vite. Je me suis sentie bien. Enfin, j'ai vraiment redécouvert une espèce de naturel et de plaisir de dessin et d'écriture incroyable. Donc, bah, depuis, je pense qu'à ça. Forcément, j'ai oui. que envie de faire ça. Donc, quand quelques temps après, Mathieu est arrivé avec ce projet de campagne, pour moi, ça cochait plein de cases. Mmh. Le seul truc qui était assez bizarre pour moi, c'était l'idée de la politique qui était pas mon sujet. Mmh. Donc, là, vraiment, c'était inattendu, mais j'ai quand même un peu une tendance à avoir du mal à refuser les défis, quoi. Et plus ils sont bizarres, plus j'ai un peu envie d'y aller. Donc voilà, c'était une proposition que je pouvais pas refuser.
Alors, je comprends la logique d'aller chercher plein de personnes, parce qu'il y a beaucoup de candidats à couvrir. Mais qu'est-ce qui t'a pris par la tête, Mathieu, d'aller embarquer des gens dans une telle galère? Pourquoi?
Surtout,
pourquoi tu les as choisis?
J'ai l'impression qu'il y a un gag récurrent, c'est qu'on a l'impression que quand on lit tes bandes dessinées, tu dis, on m'y reprendra plus, je n'aborderai plus le sujet. Et puis que ce soit un film, un documentaire, une BD collective. On te retrouve tout le temps là, quoi.
Ah bah voilà, bon, ma prochaine BD n'a rien à voir avec tout ça. Ah. Heureusement, j'ai réussi. c'est pas de baiser pour maman là.
Ah oui, on voit les deux couvertures.
Très bien.
Ouais. De luxe. Hein.
Pardon. Et donc oui. Alors ce que je dis souvent, c'est que c'est très addictif comme
une bonne série, comme tu disais.
Ouais, la politique. Et j'ai eu beaucoup de chance, disons-le. J'ai eu de la chance parce que j'ai suivi François Hollande en 2012. Il est élu, il devient président de la République. Moi, j'avais pas programmé aussi loin. Moi, ouais. Je voulais juste raconter une campagne. Mais bon, on raconte la campagne de quelqu'un qui devient président. Donc là, on se dit c'est quand même un peu l'occasion de voir ce qui se passe après.
Bien sûr.
Donc je fais une demande et c'était pas si rapide que ça l'acceptation de la part de l'Élysée, parce que ça a pris du temps, mais bon, à l'arrivée on m'a autorisé donc à raconter la vie à l'Élysée. Donc là c'est pareil, moi je m'étais dit bon, je visais loin. Je me suis dit je vais raconter une année, ça me paraissait beaucoup. Mais en vérité, une fois que l'année est terminée, c'est difficile de dire bon c'est bon, j'ai fait le tour, parce que il se passe toujours des trucs incroyables, et quand t'as accès à l'Élysée, ça veut dire t'as accès à tout potentiellement, puisque le président s'intéresse à tous les sujets, que ce soit, enfin je vais dire n'importe quoi, mais par exemple un jour il y a Arnold Schwarzenegger qui est
je l'ai vu dans ta BD Comédie française,
parce qu'il était à la tête d'un organisme écologique. On se dit tiens, c'est l'occasion de voir Arnold Schwarzenegger, et donc je fais une demande là, et puis on me dit viens, et puis hop, une demi-heure après je suis à l'Élysée dans un salon et il y a Arnold qui est là en train de parler. Et
c'est surréaliste. Ouais. Et Terminator.
C'est aussi simple que ça. Ouais. Et donc quand on a cet accès là, on a accès à tout quoi, les chefs cuisiniers, enfin tout ce que tu veux, mais tous les domaines, y compris ça peut être des associations de, enfin c'est pas que people hein, ça peut être aussi des associations d'anciens combattants ou que sais-je. Et donc j'ai eu du mal à m'en défaire. J'ai raconté ça dans un album. Et en effet, je pensais vraiment passer à autre chose. Mais quand arrive la campagne de cette année, c'est là qu'on se dit attends, c'est un peu dommage parce que j'ai quand même les accès, etc. Mais ce qui était sûr, c'est que je voulais pas refaire une bande dessinée tout seul quoi, sur une campagne présidentielle. Je voyais pas l'intérêt. Et puis en plus, je voyais le truc quand même que celle d'Emmanuel Macron allait pas être palpitante.
Bien vu.
C'est et donc j'ai cherché le moyen de et c'est en discutant avec Antoine Cocopello qui lui était très chaud justement pour suivre ça. Et puis en discutant, mais ici même dans cet atelier, on s'est dit mais finalement après tout, ça peut être marrant de faire ça à deux, voire encore mieux à plusieurs quoi, enfin plus que deux quoi. Et puis c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire ce livre collectif. Et après il fallait qu'on soit nombreux mais pas trop nombreux non plus pour que, et puis moi ce qui était très important pour moi, c'était vraiment un livre collectif dans le sens où ensemble on le réalise ensemble. C'est pas parce que moi j'ai participé à beaucoup de ce qu'on appelle des BD collectives qui sont en vérité des compilations d'histoires que chacun a fait dans son coin, et puis après t'as des trucs plus ou moins bien il y a à boire et à manger, alors que là c'est vraiment un livre écrit à 6.
Ah oui, il y a même des vignettes qui sont à 4 mains, et même des vignettes qui sont à 12 mains carrément quoi. Et le casting, alors du coup tu l'as fait comment?
Il y avait Cocopello au départ. C'est vraiment complètement du copinage, et c'est complètement empirique.
Comment vous connaissiez du coup Dorothée et Mathieu?
On se connaissait de l'époque de la collection Onomatopée et de la collection Bréal Jeunesse.
Tout à fait.
En fait, moi je connaissais dans la bande, je connaissais Mathieu et Morgane Navarro, de tous les deux de l'époque Bréal Jeunesse.
Et comment t'as pensé à Dorothée du coup? Non, j'étais pas né.
Eh ben écoute, Dorothée, c'est en discutant, parce que là on mentionne pas quelqu'un qui est très important dans le livre aussi, qui est Pauline Mermet, qui est l'éditrice au sein de Dargaud, qui travaille avec moi depuis que je fais ces BD là chez Dargaud, et qui est très très précieuse et importante dans l'élaboration de ces livres. Nous on voit toujours les noms des auteurs.
Oui, mais c'est important de le dire
sur les livres, mais sans le travail de quelqu'un comme Pauline, le livre serait pas le même. Ça c'est évident. Je n'aurais pas fait les livres que j'ai fait comme je les ai fait chez un autre éditeur. C'est aussi simple que ça. Et donc en discutant avec Pauline, qui connaissait aussi bien Dorothée, c'est Pauline qui m'a dit mais est-ce que t'as pensé à Dorothée? Et j'ai dit ah ouais, mais super idée. Oui,
je voulais juste pour faire un pont avec ce qu'on disait tout à l'heure, préciser que Pauline Mermet, c'était la secrétaire de rédaction de Capsule Cosmique.
Exactement,
c'est comme ça qu'on l'a connue.
On revient.
Salut Pauline.
Si tu écoutes ce podcast.
Voilà. Et voilà, donc ça, pour Dorothée, c'était vraiment en parlant avec Pauline, une évidence. Et puis avant de contacter Dorothée, moi pour moi le point chaud, c'était Marine Le Pen. Vous savez que Marine Le Pen serait Parce qu'on faut imaginer que quand on a réfléchi au bouquin, c'était il y a un an avant l'élection, hein, donc faut viser.
Ah oui, ouais, d'accord.
Faut arriver à se projeter quand même.
D'accord, ouais, bien sûr. Ouais.
Bah, et on sait pas. Voilà, on sait pas encore qui va vraiment se présenter.
La seule certitude, c'était Marine Le Pen. Et très probablement au second tour, qu'elle soit au second tour. Donc, c'est-à-dire, bon bah, on commence par ça. Qui va faire Marine Le Pen ?
Qui s'y colle ?
Et comment vous avez choisi ?
Et Antoine Cocopello, lui, il avait fait sa BD Palais Bourbon, donc il était un peu multi-carte, ouais, parce qu'il avait suivi un peu tous les députés, donc il aurait pu le faire, mais je me disais, bah, c'est bien d'aller, enfin, régler cette question en premier lieu. Et donc, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Morgane.
Il faut envoyer au casse-pipe.
parce que
Morgane, son côté un peu
je le connais depuis longtemps. Ouais, bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a, je sais pas, c'est difficile, hein, tu sais, après coup, d'expliquer pourquoi. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a accepté puisqu'il est dans le livre.
Et puis qu'il en joue beaucoup.
Mais que j'ai pas demandé à 50 personnes avant, tu vois. Donc, bon. Pour preuve,
J'aime trop le passage où, quelqu'un de l'équipe de Marine Le Pen lui dit « Vous avez quand même pas la dessinée de nouveau en méchante ?» Puis il est genre « Ah, moi, vous pensez ?» Non, mais vous...
Oui, mais,
qu'il est super gêné, quoi.
Ah, mais ça l'a mis dans une situation, des fois, qui est vraiment très intéressante.
Mais là où il s'en est très bien sorti, c'est que aussi, moi, je voulais pas quelqu'un qui aille... parce que c'est facile de taper sur le RN. Et je voulais pas, justement, tomber là-dedans non plus.
C'est pas une BD militante, au final, ce que vous avez fait.
Bah, on essaye, en tout cas, c'est une BD, c'est compliqué de la position. Non, mais c'est vrai,
On peut pas dire que c'est objectif, parce que c'est du reportage Gonzo. Ouais. Alors, si tu veux bien expliquer ce qu'est le reportage Gonzo.
Le Gonzo, bah, c'est dans la bande dessinée, Morgane Navarro en parle, justement. Le Gonzo, c'est un terme qui a été inventé par Hunter Thompson, journaliste américain, qui a beaucoup écrit dans les années 60-70.
Pour le grand public, c'est l'histoire de Las Vegas Parano,
qui
est joué par Johnny Depp.
C'est devenu le personnage incarné par Johnny Depp dans Las Vegas Parano. Il a vraiment existé et il a créé cette forme de journalisme où le journaliste se met en scène, raconte à la première personne et n'hésite pas à donner de sa personne parce qu'il va vraiment se retrouver dans des situations parfois délicates. Et par exemple, Hunter Thompson avait fait une enquête sur les Hells Angels et il avait vraiment passé un mois avec eux et il a failli se faire casser la gueule et tout ça. Et donc c'est très vivant et puis c'est proche de cette forme de nouveau journalisme américain où ça se lit comme un roman, quoi.
Ça vous arrivez, vous, pendant vos...
D'avoir des moments un peu...
Ouais, tendus. Genre, un peu tendax, des moments où vous êtes dit, oulala, comment ça va se passer pour moi?
Moi, paradoxalement, le moment où j'ai flippé, c'est quand j'étais à mon atelier avec mon téléphone en train de téléphoner à Sandrine Rousseau.
Ah oui, bah bien sûr, mais elle est incroyable, cette anecdote, c'est dingue. Bah, tu l'as fait quand même, t'as reçu le numéro et tu dis, allez, on y va.
Oui, en fait, le truc, c'est que je me suis dit, c'est incontournable. De toute façon, il faut le faire. Donc, j'ai fait vite le numéro avant de trop réfléchir. Et puis après, j'étais là en train d'attendre que ça sonne et franchement, je flippais, quoi. Mais je suis super contente parce que c'était incroyable. C'est-à-dire, j'étais là, j'hallucinais pendant qu'elle me parlait et je suis contente de ces pages, quoi, vraiment.
Ouais.
Et puis, je vois comment ça évolue aujourd'hui. Je me dis, s'il n'y avait pas eu ça, on aurait vraiment manqué quelque chose parce que c'était les prémices de ce qui s'est passé par la suite.
Oui, ouais, c'est ça qui est très important, c'est de vraiment montrer que le bouquin, évidemment, l'a fait au fur et à mesure. On l'a fait en temps réel.
Oui.
Donc, il y a des choses que tu sais pas. Comment?
Expliquez-nous un peu, parce que peut-être il y a des auditeurs qui se disent, en fait, de quoi il parle.
Donc, carnet de campagne, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une bande dessinée, donc, collective, où chacun des contributeurs, c'est-à-dire, donc, Dorothée, a suivi Les Verts, Les Verts, et puis Yannick Jadot, donc, le candidat des Verts, mais avant ça il y avait la primaire. Morgane Navarro donc a suivi Marine Le Pen et Éric Zemmour. Louison a suivi Anne Hidalgo et un petit peu Taubira.
Un petit peu, ouais, vraiment le tour de quelques
pourquoi
pages.
Tout le monde rigole. Et Lara a suivi les Insoumis et donc il n'y avait pas la NUP à l'époque.
Et Roussel, voilà.
Qui intervient.
Et merci Dorothée. Et Cocopello a suivi. Lui, il est parti aussi très tôt. Donc, d'abord la primaire des Républicains, et puis donc ensuite Valérie Pécresse.
Ouais, notamment Valérie Pécresse et puis Lassalle.
Et Jean Lassalle.
Voilà. Et Jean Lassalle, tout à fait.
Ah oui.
Incroyable personnage de bande dessinée.
Dans la BD, c'est formidable.
Avec son gros nez.
Et moi, j'ai suivi donc la campagne tardive d'Emmanuel Macron.
Oui, on sent ce
suspense.
Oui,
t'as rangé ton train.
Ouais, c'est ça. Pardon.
Ouais, mais ça m'allait en fait.
Non, mais Mathieu, tu t'intéresses surtout aux gagnants.
Oui, bah bien sûr.
Il faut dire ce qu'il y a quand même.
Oui.
T'aurais voulu suivre quelqu'un d'autre ou tu t'es dit bon allez reste.
Non
plus
mais
plus.
Alors écoute franchement c'était pas un cadeau. C'est-à-dire que si j'avais filé ça à quelqu'un d'autre, très compliqué parce que d'abord pour moi j'avais beaucoup de pratiques donc l'Élysée, j'avais les accès,
ils
me connaissaient, j'avais fait précédemment une bande dessinée sur les déplacements présidentiels de Macron, oui. J'avais tout la voilà arriver là-dedans, ils sont quand même très c'est très compliqué d'approcher quelqu'un comme Emmanuel Macron. Il y a une garde rapprochée, je dis pas ça parce qu'il est président de la République, c'est lui spécifiquement par rapport à François Hollande, par exemple, c'était beaucoup plus simple.
Même avant qu'il soit président, c'était plus compliqué d'approcher.
Non, Emmanuel Macron, oui, je pense pas, mais pour le coup, personne s'y intéressait.
Ah oui, bien sûr, oui, pardon. Hein. Non, bien sûr, oui, c'est vrai.
Mais donc, il y avait cet aspect-là, plus le fait qu'il s'est déclaré très tard, c'était pas simple non plus, parce que ça voulait dire essayer de trouver la porte d'entrée, le quoi raconter, comment le raconter. Donc, je pense que ça aurait pas été un bon...
Ouais, c'est sûr, moi j'étais très très contente de m'occuper des Verts, parce que c'était assez beaucoup plus simple justement, parce que c'est un plus petit parti déjà, il y a pas une grosse machine. Jadot, c'était sa première candidature, donc il avait pas du tout la même relation au pouvoir et aux personnes qui venaient, aux solliciteurs quoi.
Mais tout le monde était jaloux de toi d'ailleurs.
Ah oui, parce que moi, j'ai rien fait et tout de suite je le vois quoi.
C'était, et puis ils sont créatifs chez les Verts, ils inventent plein de choses.
Voilà, ils font du bricolage et tout ça. Moi, j'aime bien ça, un côté burlesque qui m'a beaucoup plu.
Si tu prends Lara, lui, Jean-Luc Mélenchon, il l'a vu finalement une semaine avant le deuxième tour, hein, oui. Pas le premier. Alors le deuxième tour,
c'est une 400. Plus, ouais.
Non mais je sais, j'ai eu la chance du débutant.
Parce que
il faut raconter comme la.
Oui, alors l'histoire qu'on est en train de raconter, c'est que je vais à mon premier rendez-vous de prise de contact avec le bras droit de Yannick Jadot, et donc je suis accompagnée par Coco Pello, qui le connaît, et Mathieu, pour qu'on explique le projet. On arrive au lieu du rendez-vous, on attend devant l'ascenseur, et l'ascenseur, il faut une carte pour rentrer dedans, donc on poireaute. Et là, Yannick Jadot arrive, donc on a pris l'ascenseur avec lui et pour aller au rendez-vous. Voilà.
Et on voit dans la BD.
C'est la magie.
Oui, alors nous on fait, oui, vous me raconterez ça tout en haut, ça va.
Oui, c'était tout le temps comme ça, quoi.
Donc, ta mission d'infiltration, c'est comme ça que ça s'est passé.
Ah ben, on peut pas faire plus direct.
Easy, quoi. Finger in the nose.
Oui, c'était dingue.
Et puis, par la suite, les portes ont toujours été ouvertes.
Ouais.
Ok. Bon, c'est génial, ça, pour toi.
C'était génial.
Allô, ici le Patate Club.
Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donne grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accéder aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, aux portfolio reviews, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com/sciencecreativepodcast ou sur patatclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci.
Allez, retour à l'épisode.
Et est-ce qu'il y a eu d'autres... D'autres situations peut-être plus compliquées pour d'autres auteurs ou pour toi.
Pour le reste c'était quand même beaucoup plus compliqué. Lara, on a eu des. Et Lara est un garçon, hein, je précise. Oui. On a eu d'abord un premier rendez-vous avec une collaboratrice de Mélenchon, après un deuxième, après. Il va pouvoir assister à des meetings, mais de loin, etc. C'est vraiment petit à petit qu'il va pouvoir se rapprocher, mais c'est très long. Pareil pour côté Zemmour ou Le Pen, même si, je sais pas, on peut révéler maintenant, à la fin quand même, du bouquin, Morgan Navarro se retrouve chez Jean-Marie Le Pen quand même.
C'est vraiment what the fuck.
Ce qui est très drôle, c'est que on s'était retrouvés, donc on était à 5 tous sauf Morgan dans un bar pour assister au résultat du deuxième tour.
On parle de l'avant-dernière page du bouquin.
Voilà. Et là, Morgan nous dit qu'il est en effet chez Jean-Marie Le Pen et on s'est retrouvés en visio avec Morgan en train de regarder les résultats et Morgan
est en train de regarder Jean-Marie Le Pen devant la télévision.
Ça n'a aucun sens.
Aucun sens.
Mais et voilà, sinon
il est allé au bout du bout, quoi. c'est incroyable, quoi.
C'est ça.
C'est un journaliste
qui a bouffé de la saucisse dans les meetings.
Un journaliste de Libé, je crois, qui lui a proposé d'y aller, donc il s'est dit je peux pas rater ça.
Et puis c'est fou aussi les contacts que vous faites avec les journalistes au fur et à mesure. Mathieu, tu connais ça depuis un moment, mais on voit bien Morgane qui découvre en fait un univers qu'il connaît absolument pas. Et il fait copain avec plein de journalistes et là il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il se sent dans la peau de journaliste. Il le raconte vraiment très bien. Et ça, je trouve que ces moments-là sont vraiment vraiment cool à lire, quoi. C'est ouais, il se passe vraiment quelque chose. On a une empathie avec le dessinateur.
Oui,
le
mais c'est vrai que pour nous c'est un moyen très facile et très simple, en fait très très tentant d'essayer d'avoir des infos par ce biais-là, parce que quand on voit la télévision, quand on lit la presse, on a l'impression que tu as les politiques et qui sont presque face à toi, alors que non, ils sont face aux journalistes. Et quand tu déportes le regard, il y a une armée de journalistes qui sont là à les suivre, à les connaître par cœur.
C'est plein de filtres, en fait. Ouais.
Voilà. Et donc, tu les vois jamais dans la... Ou alors, si, t'as les images télé où tu vois tous les micros tendus et tout ça, mais tu vois jamais des individus, des personnes.
Oui, comme Valérie Pécresse en podcast, qui est pas du tout la même personne que quand elle est justement face à au jeu, en fait, face aux journalistes, au meeting.
Mais du fait en sympathisant avec des journalistes, c'est très tentant de les faire parler parce qu'ils racontent plein de choses intéressantes, quoi.
Et toi, Dorothée, tu as un petit peu mis aussi de tes éléments personnels, en fait, puisque tu fais intervenir carrément ta famille dans le livre.
Bah moi, j'avais envie de commencer en essayant d'expliquer d'où je parle, en fait. Donc voilà, qu'est-ce que c'est mon environnement familial. Surtout que m'occupant des vers, je trouvais que ça avait une forte résonance chez les enfants, qui sont quand même des fans de l'écologie.
Bah oui,
incroyable. Donc moi, c'est un truc que je constate dans ma famille, c'est-à-dire qu'entre la génération de mes parents où ils captent rien carrément et la génération de mes filles où elles sont mais à fond, un point incroyable. Moi, je me situe un peu entre les deux, donc je suis toujours un peu dans ces discussions familialement. On parlait tout à l'heure de la politique, est-ce qu'on en parlait chez nous? Moi, pas tellement, mais c'est vrai que par contre, l'écologie, c'est le sujet numéro un de débat et de conflit entre les grands-parents, les parents, les enfants. Hein. C'est vraiment très fort. Donc j'avais envie un peu de évoquer ça, bon, très légèrement, mais c'était important, ouais.
Ouais, mais je pense que c'est des pages aussi qui ont vraiment du sens et qui plaisent dans le bouquin parce que tout le monde a ses...
Je pense que c'est pas que moi, c'est un truc qui se retrouve dans plein de familles.
Tes parents, ils ont lu la BD, du coup?
Je crois. Je crois qu'ils ont beaucoup aimé les pages sur Jean Lassalle.
Et comment vous êtes organisé, du coup, parce que c'est quand même un tour de force de faire une BD.
À la base, c'est 40 pages à se répartir. Enfin, chacun a 40 pages. Ouais. Donc, ça fait 4 fois 6, donc 24. 240 pages.
240.
Ouais, bah c'est ça. C'était vraiment... Enfin, quand j'y repense, c'était un peu taré.
Il y a cette scène au début de la BD.
Tu dis 40 pages, c'est facile. Vous les retirez. Vous en faites pas.
Tu te rends compte, à un moment donné, quand tout le monde te pose des questions dans un bar, là, que oulala, dans quoi je me suis embarqué.
Bah, ce qui était très compliqué, c'est qu'on avait 40 pages chacun, mais surtout qu'on n'a pas travaillé au même rythme. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, comme moi, qui ont fait plus de choses au début parce qu'il se passait plus de choses au début, et d'autres pour qui il s'est passé plus de choses à la fin. Mais on avait quand même 40 pages chacun. Et on savait pas à l'avance où est-ce qu'on allait placer nos pages dans le livre. Mmh. Et on avait un premier départ en gravure, à quelle date? Je sais même plus. Assez tôt. Et donc, en fait, il fallait qu'il y ait quand même un équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas toutes les pages d'un auteur au début et celles d'un autre après.
6 avril, je crois.
Donc, il a fallu faire des heures de brainstorming. Ça, c'est Mathieu qui s'est collé pour trouver l'ordre des pages, en fait, et en fait, construire une narration à partir de toutes les pages, parce que ça finit par faire un récit unique.
Mmh. Ouais, t'as fait un travail de monteur, en fait.
Ouais.
Oui, enfin après avec l'aval de tout le monde, hein, c'était très collégial quand même, parce qu'on avait un fil de discussion. Bien sûr, il y avait un fil de discussion qui était en permanence alimenté.
Toujours aujourd'hui.
Voilà. Ouais.
Ah oui, d'accord. Ah, c'est
et donc,
cool ça.
On savait systématiquement que un tel est à tel déplacement, un tel. Tiens, je viens de finir des pages sur la soirée truc. Ah, ça peut être pas mal parce que moi, comme j'ai fait un truc le lendemain, je vais enchaîner derrière. Mais c'est vrai que c'était dingo parce que ça te à la fois il faut être sur place, c'est-à-dire voir des choses, comprendre quelque chose, essayer de comprendre ce que t'es en train de voir. Est-ce que la journée que j'ai passée avec tel militant est importante ou est-ce que on s'en fout? Donc ça c'est vraiment les discussions qu'on avait entre nous qui permettaient aussi de tester un peu la réaction des autres. Et puis donc ce travail-là de terrain. Après t'avais un travail d'écriture, de storyboard, de narration, quoi. Et ensuite tout ce travail de comment intégrer ça dans un récit collectif, sans parler de la couleur qui a été faite par Clémence, on en a pas parlé.
Ta sœur, c'est ça?
Ma sœur. Ouais. Et puis tout ça dans des contraintes de temps très 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 précises, qui si on dépassait d'une journée, ça tous casser la gueule.
Ah oui, la gamme chromatique de justement d'un contributeur à l'autre, en fait, elle est vraiment particulière, quoi.
Voilà, ouais, tout ça a été réfléchi en amont. Alors, bah, je pense que le truc qu'on avait, c'est qu'on c'était quand même beaucoup préparé avant. On s'y est pris tôt, en septembre, pour un truc qui commençait vraiment en décembre. Je dirais. Enfin, toi, t'as commencé un peu plus tôt, finalement.
Oui, mais c'était les petites pages d'introduction, voilà. Mais sinon, mais les déplacements, ça a commencé.
Le vrai démarrage, ouais, c'est décembre. Oui.
Ce qui transparaît aussi dans la BD, c'est que tu voulais prendre de l'avance. Tu voulais faire tes pages en avance.
Ça, c'est ma pathologie personnelle. La chose que je préfère au monde, c'est de me dire, comme ça, c'est fait.
Ouais.
Voilà.
Check.
ouais, mais c'est, non, mais c'était, après, c'était important. Ce qui était très important, c'était que toutes les individualités soit respecté, c'est-à-dire que le but c'est que chacun, enfin, si on a aussi choisi toutes ces personnes, c'est parce qu'elles sont, je pense, compatibles et en même temps différentes, quoi. Mmh. Et donc tu reconnais à chaque fois qui fait quoi, mais il y a pas, je pense, quand on lit le bouquin, que c'est fluide, qu'il y a pas de, on parle la même langue, quoi. Et après on s'était mis d'accord sur des systèmes aussi d'organisation de pages avec des gaufriers de 6 cases qu'on a le droit de
pour qu'il y ait une sorte de rythme
de les faire, aussi, voilà, ça, ouais. Évidemment un format qui soit le même, enfin, tout ça était réfléchi mais aussi beaucoup improvisé, quoi.
Il s'est passé beaucoup de choses pendant la campagne. Du coup, comment vous avez fait pour trier, parce que 40 pages chacun, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois face à ce qui s'est passé. Comment vous avez fait pour trier, retenir ceci et pas cela? Ça devait être difficile.
Bah, on oublie aussi un paramètre qui était l'argent, parce qu'on avait aussi une petite cagnotte pour des déplacements. Et là aussi, il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aille à Marseille, prendre un billet de TGV, une nuit d'hôtel pour voir ce truc qui ressemble quand même pas mal au truc que j'ai fait la semaine dernière. Donc t'as aussi en plus cet aspect de gestion de fatigue, gestion d'argent, gestion de temps. Et c'était pas ta question. C'était quoi ta question?
Si non, mais tu m'as embarqué, ouais. Hein, sans mauvais jeu de mots. Non, ma question c'était oui, comment vous avez fait le tri de tout, ouais. Tout ce qu'il y avait à raconter. Parce que vous avez pris des tonnes de notes et vous aviez chacun
inattendu,
que...
Il y a forcément l'imprévu.
C'est vrai que depuis le début, Mathieu nous disait 40 pages, c'est pas beaucoup. Et oui. Moi, je me disais, oh là là, 40 pages, c'est pas beaucoup, mais moi, j'ai pas l'habitude, c'est énorme, vite, faire des pages. Et à la fin, bah évidemment, j'en avais pas assez, comme tout le monde.
Oui.
Donc, il faut être clair, en fait, sur ce qui nous intéresse. Quand on a fait le choix d'aller quelque part, il faut vraiment se dire pourquoi j'y vais et qu'est-ce que ça raconte. Et donc ça, ce choix-là, il est hyper personnel. Par exemple, à un moment, moi, je suis allée à Rouen parce que je voulais voir un meeting, etc. de Yannick Jadot. Et j'avais la possibilité soit d'arriver en avance pour voir le montage de l'estrade mobile, soit d'aller dans le même train qu'Yannick Jadot pour être avec lui. Mmh. Et j'ai vraiment
n'importe
j'hésitais.
Quel journaliste choisirait.
Bah, Mathieu me dit, moi j'irai dans le train avec Yannick Jadot, bon, mais tu fais ce que tu veux. Et moi je me dis, quand même, l'estrade m'excitait à mort, quoi. Donc j'y vais, et là, vous avez vu dans le livre,
oui,
en fait,
il
y a eu un vent, mais monstrueux, ce qui fait qu'ils ont commencé à monter l'estrade et ils n'ont pas pu finir. Les trucs s'envolaient, ils avaient peur que Yannick Jadot s'envole. Ça a failli être annulé. Et moi, mais en fait, j'ai adoré. Alors, les militants qui étaient là pour superviser le montage de l'estrade étaient un peu flippés parce qu'ils avaient peur que ça donne une mauvaise image. Ouais. Mais moi, j'ai adoré parce qu'en plus, le meeting a eu lieu sans estrade. Et pour moi, c'était un pur truc de résilience. Et je trouve que ça raconte quelque chose des verts.
On est là, quoi, on le fait.
Donc, pour moi, c'était important. Et ça, cette séquence, en fait, elle est issue d'un parti pris que j'avais même en amont, de qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec ce déplacement-là. Donc, je pense qu'on a tous eu un moment des réflexions comme ça, qui sont liées à, j'ai envie de voir ça, pourquoi j'ai envie de le voir, et qu'est-ce que ça a comme écho pour moi.
Et au niveau global sur ce projet, qu'est-ce qui t'intéressait, toi, vraiment, genre, quand on tire le fil un peu de tout ce travail que t'as fait, c'était quoi le truc où tu dis, moi, je veux vraiment...
Alors, moi, il y a deux choses. D'abord, le premier truc, c'est que je sais jamais pour qui voter.
Ok.
Voilà. Moi, je suis d'une famille de droite tradie classique qui se pose pas de questions. Je vis dans un milieu de gauche classique qui se pose pas de questions. Et je sais jamais pour qui voter. Voilà. Donc, ça m'intéressait de passer un peu du temps à suivre ça de près pour mieux comprendre et me faire une opinion plus étayée. Et l'autre truc, c'est que j'avais envie de comprendre pourquoi les candidats faisaient ça. Parce que c'est quand même un truc de fou, quoi.
C'est un barnum, quoi.
Mais le
constant.
Temps qu'ils y passent, l'énergie, la violence, quand même, de ce qu'ils se prennent, dans la figure, enfin c'est quand même un sacerdoce.
Oui, on voit bien la scène où Coppello raconte l'entrée en scène justement de Valérie Pécresse. Moi j'ai vraiment ressenti les boum boum, tu vois, il l'a bien retranscrit, et c'est vrai que c'est un truc de dingue, quoi, parce que elle est embarquée par toute sa garde rapprochée, elle arrive, elle va se prendre un mur de personnes, et il faut envoyer la...
Ouais, c'est toujours le risque, c'est très dur, et moi j'ai pas la réponse quand même, pourquoi ils font ça, pourquoi ils y retournent, c'est voilà. Mais...
Puis quand ils se cassent la gueule,
il y a un engagement très fort, quoi, et c'est assez fascinant de voir ça de près.
Donc première chose, savoir pour qui voter. Deuxième chose,
qu'est-ce que c'est que d'être candidat? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas un métier, mais qu'est-ce que c'est que le travail de candidat?
Mmh. Oui.
Comprendre ça. En fait, j'aime bien
qui
comprendre.
Qui sont ces gens?
Ouais, qui sont ces gens? Non, j'aime bien toujours essayer de comprendre le travail des autres. Et plus c'est loin de moi, plus ça m'intéresse. Donc, je sais pas que fait un potier, un pilote d'avion, un banquier. Enfin, ça m'intéresse toujours quand on va chercher vraiment au fin fond des boulons de la machine, quoi, pour comprendre quelle est la pensée qu'il y a derrière et quelle est la vie qu'il y a derrière. Donc là, voilà, c'était ça en politique.
Ouais. Et c'est ça qui est formidable aussi avec votre posture de dessinateur, dessinatrice, c'est que vous pouviez faire ce petit point de côté, quoi, ce petit pas de côté, cette petite touche d'humour, cette petite subjectivité qu'on n'a pas l'habitude finalement dans ces milieux-là. On rentre dans les coulisses.
Oui, oui, bah après on a eu un bon accueil. Hein. C'est vrai que les gens, t'as un traitement à part quand t'es dessinateur.
Ouais, voilà, tu viens avec ton petit carnet. Ils
te disent ah bah oui,
ton petite bête de fou.
Ouais, ils sont très contents. Montrez-moi vos dessins. Et quelles que soient les parties, hein, ça c'est sûr que c'est un plus. Et on s'en est pas privé d'ailleurs.
Et à l'inverse, est-ce que vous êtes censuré? Est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce qu'on vous a interdit, par exemple, formellement, de dessiner ou de raconter ça et que vous l'avez suivi?
Non.
Moi, il y a un truc que je raconte dans le livre, d'ailleurs, où je vais voir un adjoint au maire qui me dit « Bon, ça, tu notes pas. Hein. » Puis je continue à noter. En fait, il me voit, il dit rien. Et voilà. Et donc, je l'ai mis dans le livre. Parce qu'après, j'ai hésité. Est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Donc, oui. Je le mets sur le fil de discussion. Ouais, ouais. Est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Il m'a dit de pas le faire, mais il a vu que je continuais.
Ça, on m'en parle souvent de cette scène.
Voilà. Donc on l'a mis parce que c'est une question qui revient tout le temps et c'est assez symptomatique de l'exercice, quoi. Après,
Et puis, en termes de bande dessinée, ça a un effet méta qui
Oui, mais c'était vraiment comme ça tout le temps. Après, moi, j'ai eu un peu un petit souci après la sortie du livre avec une personne qui était pas contente, mais j'ai pas bien compris pourquoi.
Je pense qu'elle était surprise. Après, ça fait vraiment un drôle d'effet pour quelqu'un de se voir tout d'un coup dans un album. Mm-hmm. On parle pas de quelque chose qui pourrait être préjudiciable. Hein,
Non, bien sûr.
C'est juste le fait de se voir tout d'un coup.
Avec
le nom. Et que le truc est reproduit en plus à pas mal d'exemplaires, qu'on en parle dans la presse, il y a des gens qui, surtout ceux qui sont pas habitués à être sur le devant de la scène, ça les perturbe pour certains, beaucoup. Et ouais, moi ça m'est arrivé aussi, mais c'est par exemple peut-être plus des journalistes, moi c'est arrivé qu'ils soient étonnés, qu'on parle d'eux.
Ils ont pas l'habitude de ça.
Non. Et parfois, ouais, il y a des gens qui réagissent de façon un peu, ils sont perturbés, quoi.
Et du coup, personnellement, comment vous...
Souvent, quand même, faut le dire, la plupart du temps, c'est plutôt l'inverse, les gens sont très contents. Ah, oui. C'est génial, tu m'as dessiné. Et puis, je vais utiliser le dessin pour mon profil.
Ouais, c'est classique, ça.
Ouais, c'est carrément donc, ça. Ouais.
Et juste pour finir, moi, j'ai pas été censuré de rien. Après, pour être très, très honnête, côté Macron, c'est tellement verrouillé, si tu veux. Moi, j'ai eu accès à des trucs, mais c'était vraiment à la toute fin, parce que à force de mettre le pied dans la porte. Mais on est tellement dans un système de communication où tout est extrêmement cadré que je vois pas ce qui pourrait les déranger, parce que voilà, ils sont très pros. Et c'est ce que dit Valérie Pécresse à Cocopello. À l'inverse, elle dit, elle voit les pages de Cocopello, il le raconte dans l'album,
oui,
où elle est vraiment pas à son avantage.
Oui.
Et elle dit c'est pas cool, vous me faites passer pour une mégère ou je sais pas quoi, et puis Antoine lui dit oui mais regardez, ils font pareil chez Macron et tout ça, il y a pas de problème. Elle dit oui mais Macron il fait pas d'erreur, je crois, elle dit ça.
Ouais, c'est exactement ça.
Et tu dis waouh, ça dit tout, quoi. Et c'est un peu vrai, c'est-à-dire que Macron, quand on parle des phrases malheureuses qui sortent dans la presse, c'est jamais des trucs complètement pas maîtrisé, c'est-à-dire qu'il le fait.
On en parlait tout à l'heure.
Ouais, il le fait, il sait ce qu'il fait. Et j'ai pas tellement d'exemples. Je suis côté Macron de bourdes de communication, enfin de trucs. Il y a d'énormes conneries, hein, qui sont dites, qui sont faites, elles sont assumées.
Ouais.
Elles sont pas non maîtrisées par rapport à même chez Hollande où il y avait des fois des trucs où tu te dis mais qui est là pour essayer de...
Ce qu'il faut préciser, c'est qu'Emmanuel Macron, il sait très bien qui tu es, il te connaît, ouais, etc. Et on va pas raconter à nouveau les anecdotes avec Gérard Depardieu. Vous pouvez les entendre. Si tu veux en parler. Mais à quel moment, toi, tu arrives quand même à garder ta distance avec quelqu'un qui va forcément copiner avec toi et,
Moi, c'est simple.
C'est le propos de Comédie Française.
Ouais, moi, je pars du principe que c'est des gens, les politiques, hein, vraiment, on parle des dinosaures, enfin, les gros, les politiques de premier plan, il y a zéro pitié parce qu'ils sont habitués. ils savent. Et donc quand moi ça m'est déjà arrivé d'être en face de personnalités comme ça qui te balancent des trucs énormes, mais ils savent très bien que s'ils te le disent, c'est que tu vas le répéter. Et donc quelque part il y a presque une intention. Donc c'est plutôt l'inverse. Des fois il faut faire gaffe à ne pas devenir une espèce de porte-voix parce que ils ont envie de... C'était un peu le problème qu'on avait avec Sandrine Rousseau.
C'est exactement la question.
À Dorothée, ouais. Parce que il y a un moment donné, Dorothée, enfin tu me corriges hein, si je dis une bêtise, mais m'appelle, me dit j'ai eu Sandrine Rousseau, elle m'a balancé des trucs, mais c'est énorme, et c'est complètement fou. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Et en même temps, tu te dis, mais...
Pour moi, c'était clair qu'elle me disait ça pour que je le répète. Voilà. Parce que de toute façon, j'avais dit, voilà, c'est pour un livre, ça sort à telle date, après l'élection, donc voilà, elle savait ce qu'elle faisait. Mais est-ce qu'on est instrumentalisé, en effet?
Et donc, après, c'est un arbitrage à faire. Mais moi, je trouve que du moment où tu te mets en scène, tu racontes le truc, après, le lecteur connaît le contexte.
Oui.
C'est pas tout à fait la même chose
oui,
que
c'était plus
que
ton
faire un article dans lequel tu...
Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de presque pas la dessiner. En fait, je dessine l'effet que son discours a sur moi.
Ah mais ça marche très bien, parce que c'est au téléphone. C'est trop bien.
Et puis comme il y a cette présentation très systématique, c'est très fort aussi graphiquement, et on comprend que là, il y a une séquence qui est pas comme les autres. Et donc on la lit différemment.
Il y a eu d'autres moments comme ça, un peu surréalistes pour vous, de mémoire, ou des moments sympas ou difficiles, enfin on peut piocher là-dedans, quoi, mais parce que la BD est riche, et puis voilà, on peut discuter avec vous, est-ce que...
Un moment très sympa, c'était quand même la soirée de premier tour.
Ouais, bah ouais, moi j'y étais pas avec vous, mais...
T'y étais pas, parce qu'on était tous, presque tous, dans des soirées de perdants, donc c'était très triste,
ouais.
Et Coco Pello nous a envoyé un message, lui il était chez Pécresse, donc c'était vraiment la loose, donc il va chez Jean Lassalle pour finir la soirée, et là c'était l'ambiance de folie, parce que lui il avait doublé son score, enfin voilà, donc il nous a proposé de le rejoindre, et là c'était vraiment la folie,
ouais. Grosse soirée.
Bah, grosse soirée, pas très grosse,
mais
très bonne ambiance, ouais. Voilà, très agréable, on est reparti avec des t-shirts et des tote bags, on a mangé des frites, l'alcool coulait à flot, enfin voilà, c'était...
Et pour toi, Mathieu?
Des moments un peu what the fuck?
Ouais.
Bah, c'est quand même dans l'avion présidentiel. C'est toujours un peu what the fuck quand t'es dans le
fascisme. J'osais pas en parler.
Pourquoi c'est what the fuck?
Bah, déjà, bon, moi, j'y croyais plus. Et puis, c'est Louison qui m'a sauvé la mise parce que il se trouve qu'elle, elle a un contact avec Brigitte Macron, et donc elle a fini par demander à Brigitte Macron s'il n'y avait pas moyen que je puisse, moi, monter dans le Falcon pour le dernier jour de déplacement de Macron. Et donc, ils ont été OK. Mais ce qui fait bizarre, c'est que déjà, quand on arrive dans l'avion, donc tu sors des voitures du cortège, et on est une poignée, hein, et donc... T'as le président qui va monter dans l'avion, t'as les deux pilotes qui sont, donc c'est des militaires, hein, qui sont devant au garde-à-vous. Et puis moi, bah, je suis le mouvement, tu vois, donc je vais pour monter dans l'avion, et là, il y a un des pilotes qui se penche vers moi, et comme pour m'arrêter, quoi. Et je me dis, mince, ils vont me dire, non, en fait.
Oui, est-ce que le président, il dit, puis après, est-ce que la sécurité dit
Ouais, voilà, vous attendez là, monsieur. Et en fait, il me dit, monsieur Sapin. Oui, non, je voulais vous dire, on aime beaucoup vos BD.
Là, c'est trop bien.
Ça arrive tout le temps, ça.
Ça fait vraiment.
C'était en suspense absolu, et en fait, on est des fans.
Donc ça, bon, je me fais mousser, désolé, mais j'avoue que vraiment, je me suis dit, ok, d'accord.
C'est très très cool, ça.
et puis après, ouais, t'es dans l'avion, puis c'est toujours bizarre, parce que là, t'es dans un truc, une cellule, une espèce de bulle. C'est très à la fois très rapide, et puis tu captes, t'essaies de capter tout, parce que, les gens sont forcément plus naturels dans un cadre comme celui-ci. Et puis là, en l'occurrence, t'avais Macron qui... Bah, il était complètement lâché, c'était son dernier jour. Il me parle de Gérard Majax. Il commence à me raconter que Majax, c'est lui qui avait fait le générique du Grand Blond avec une chaussure noire. Après, il me parle... Il commence à s'exciter parce qu'on allait dans un bled. On était pas loin de Saint-Cyr-Clapopi. Il voulait aller là parce qu'il y avait André Breton qui était allé... Enfin, complètement lâché. Après, il se met à chambrer son directeur de cabinet. Enfin, c'était vraiment une ambiance bizarre, quoi.
Ouais.
Et puis, à planifier le soir du premier tour... du premier tour, non, du second tour, du second tour, ouais. Avec son équipe qui font des blagues, dire ouais, vous pourriez vous mettre sur le bassin là, nu au milieu. Enfin bon, c'est marrant parce qu'on assiste à un truc auquel on n'est pas supposé assister, quoi.
Bah oui, vous avez été témoin de.
Ouais. Mais mon souci ce jour-là, c'est qu'il me restait deux pages. Donc j'avais une matière géniale, mais j'avais plus de place pour la raconter, quoi. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on avait chacun 40 pages et c'était pas 41.
Ouais.
Donc il fallait gérer cette espèce de récit au fur et à mesure, parce que on l'a peut-être pas précisé, mais donc la fin de l'album, elle est envoyée à l'impression le lendemain du second tour. Donc,
ouais, c'est ouf ça.
On a pas du tout de temps pour se retourner, quoi.
Ouais. Vous auriez peut-être voulu faire les choses différemment avec du recul maintenant ou...
On avait parlé au début de faire une espèce de version luxe avec tout ce qu'on n'avait pas pu dire, puis finalement...
Je pense que ça aurait pas été évident de se replonger dedans parce que c'était un rythme tellement particulier et sans avoir cette pression-là, continuer, c'est... Je sais pas, j'ai des doutes.
Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que cet album, ouais, il est vraiment particulier, il aurait pas pu être fait autrement, quoi. Il y a un truc, c'est sans filet, quoi.
Oui, je pense qu'on a inventé une manière de travailler avec ce livre. Vraiment de le véritable collectif de dessin, quoi. Moi, ça ressemble à une expérience que j'ai eue en musique, qui était l'expérience de l'enregistrement d'un disque. C'est ce qui s'en rapproche le plus, parce qu'il y a une espèce d'intensité au présent et de lien de groupe hyper fort.
Ouais, vous vous connaissiez pas au début, il me semble, hein, et après finalement vous travaillez à l'unisson.
Ouais, il y a un côté comme ça, ouais.
Ouais, non, ce qui est chouette, c'est que la plupart des contributeurs, contributrices se connaissaient pas ou peu, et puis il y a vraiment un truc qui s'est créé de groupe, quoi.
Vous allez faire autre chose?
Parce qu'il y a le groupe WhatsApp, hein, j'ai entendu tout à l'heure, hein, qui marche encore.
Non, on aimerait beaucoup, mais c'est pas si facile, parce que pour recréer, enfin, on sait qu'on n'arrivera pas à recréer une forme de magie qui était liée à ce moment très particulier, quoi. Mais il y a l'envie, bien sûr, on a tous envie de refaire des trucs ensemble, ouais.
Et en quoi ce projet a peut-être changé votre regard sur la politique ?
Moi, ça m'a montré vraiment le taux de sérieux des gens qui travaillaient là-dedans. En fait, j'étais impressionnée par la quantité de boulot.
Ouais.
C'est incroyable, quoi. Enfin, l'implication, le travail. Donc, rien que déjà pour ça, quand même, un certain respect du travail qu'ils font. Et puis, ben, ce que j'ai découvert aussi, c'est le travail des journalistes que je connaissais pas du tout. Comme on en parlait tout à l'heure, on s'est un peu mis dans leur pas parce que nous on était complètement débutants et voilà, on s'est servi un peu d'eux comme de guide et c'était super intéressant, ça c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.
Moi que je connaissais bien ce milieu, c'est plutôt la fin d'un truc, c'est-à-dire que pour moi on verra ce que je
fais. Ah, vas-tu vraiment boucler ta boucle?
Ouais, bah là, c'est-à-dire par exemple, je continue à faire des pages pour la revue Zadig mais sur des mères. M-A-I-R-E.
Oui,
c'est de la politique, mais c'est, j'ai quand même quitté un peu l'orbite de premier plan,
ouais.
De politique nationale.
C'est pas la même chose du tout. Hein, c'est
et ça me fait du bien. Enfin, moi, je suis vraiment content de ça. J'ai pas de manque par rapport à ça. Et puis après, j'ai l'impression qu'une page aussi est tournée dans la politique de manière générale et avec cette élection. Les gens quand même étaient pas passionnés parce qu'on sentait qu'il y avait une espèce de lassitude. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu la fin des illusions, quoi, qu'il y a beaucoup de résignation.
Un changement d'époque.
Quoi. Ouais. Et bon, après, c'est mon tropisme perso où j'ai l'impression que voilà, les choses seront plus comme elles étaient. Mais ce qui est sûr, ouais, c'est que la politique à l'ancienne avec les partis institués, tout ça qui a déjà été très relégué en 2017, là maintenant, voilà, on est vraiment passé à autre chose.
Faudra documenter le autre chose du coup.
Oui, mais on est en plein dedans là. On descend et puis quand tu vois la NUP, là, c'est incroyable. Tu vois tout ce qui se passe là. Au printemps, là, c'était la super bonne ambiance. C'était l'euphorie. Et puis là, tu vois aujourd'hui que t'as un espèce de truc un peu triste, je trouve. Et c'est difficile de faire rêver quoi avec la politique aujourd'hui,
oui.
quels que soient les partis, tu vois, tous ils ont du mal. Et puis on n'a pas parlé d'un truc aussi important qui est le déclenchement de la guerre en
Ah mais
en
exactement. Ukraine,
hein. Ah mais oui, évidemment, mais oui, c'est vrai.
C'est parti. Ouais.
Carrément.
Et c'est, alors je sais pas à quel point ça déteint aussi sur tout le reste, mais il y a ce truc là aussi de fin d'une forme de on a connu les attentats en 2013 2015 pardon 2015 qui ont fortement déprimé tout le monde mais c'était plus une espèce d'angoisse un peu genre qui s'est installé. Mais là, avec la guerre en Ukraine, t'as vraiment l'impression que cette espèce de longue période de paix en Europe, bon.
Et comme si tous les efforts qui avaient été faits pendant des dizaines d'années avaient servi à pas grand chose en fait.
Bah en tout cas ça a stressé tout le monde et ça continue de stresser tout le monde.
Bah non, mais c'est vrai.
Et donc ce truc-là survient. Alors il y avait zéro rapport, hein, c'est un hasard, mais survient pendant la campagne et en effet d'un seul coup on a vu les choses changer complètement quoi. Vas-y, enchaîne.
Vas-y, après l'Ukraine.
Ouais, c'est clair. Comment j'enchaîne après l'Ukraine?
Dans le bouquin, en tout cas, on le raconte, nous.
Ah oui, voilà, comment, oui.
On le raconte, et là aussi, on se passe le relais de la narration là-dessus, parce que je crois que c'est moi qui fais la première mention de ça, parce que c'était quand je revenais de Rouen, je crois, justement, où sur le quai de la gare, il y a l'assistant de Yannick Jadot qui voit une notification à ce propos. Et ensuite, c'est toi?
Ensuite Lara. Bah, en fait oui, Pierre.
J'ai fait
un flashback aussi parce que 2-3 mois plus tôt quand même en décembre, donc avant que vraiment que la campagne soit lancée, moi je suivais un déplacement du non pas candidat mais président Macron et puis là au milieu du déplacement qui avait lieu c'était dans le centre de la France, je me rappelle même plus la ville, mais il dit ah ben là il y a pendant une heure là il faut que j'aille faire un appel triangulaire avec Poutine et Biden à propos de l'Ukraine, mais il minimise, il dit bon
ça au milieu du reste.
Ça va parce que justement ce jour-là j'ai eu l'occasion de parler un peu, d'échanger un peu avec lui et on était très peu nombreux et donc il en parle vraiment en conversation quoi. Et il dit bon ça va aller quoi.
Et on te voit, toi, à chaque fois entendre le mot Ukraine, genre, il se passe quelque chose? Bon, on n'a pas l'impression.
Ouais, enfin, on se dit, oui, c'est un truc qui est récurrent, où on sent que Poutine, il est grognon, mais bon, c'est pas très grave.
Tu soupçonnais pas ce qui nous...
Et voilà, et trois mois plus tard, bah non, en fait, il rigole pas du tout, quoi. et là, ouais,
c'est
tout le monde.
Mais c'est ça qui est trop bien avec la BD reportage. Il y a aussi ça avec une année exemplaire de Lisa Mandel, qui était partie pour, raconter juste son année
d'expérimentation,
puis pouf, il y a le Covid en plein milieu qui vient tout chambouler. C'est drôle, entre l'intention première...
On parle d'urgence, mais pas dans l'urgence, quoi.
Ouais, la réalité qui vient se mélanger à l'intention.
C'est ça qui est passionnant, hein, bien sûr.
Et donc, du coup, on en arrive à aujourd'hui. C'est quoi un petit peu vos actualités à tous les deux?
Moi, je commence une BD avec Hervé Bourris et Franck Bourgeron, sur Jacques Lang et les années du ministère de la Culture Mitterrand-Lang.
Wow.
Ah, ça c'est encore
pas des animaux.
Mais du doc pour le coup.
Alors ouais, c'est du documentaire, mais avec il y aura peut-être un petit côté aussi entretien d'aujourd'hui avec Jacques Lang qu'on a commencé à rencontrer. Voilà, donc je fais ça. J'ai un projet de dessin animé aussi, de série animée d'après les livres pour enfants.
Je l'ai vu.
Voilà, donc là, bah, ça prend toujours beaucoup de temps. Donc il y a pour l'instant un teaser qui a été montré à plein de gens et on attend.
On mettra le lien.
Voilà, on attend de voir si des diffuseurs sont intéressés pour se mettre dans la boucle. Voilà.
Les toutous, c'est un peu.
Ah bah les toutous. Hein.
C'est
très présent dans. Ouais, c'est
que
ça.
Je fais depuis 10 ans. Dans cette année, en fait, les 10 ans. Donc d'ailleurs, pour ceux qui sont fans, pour les 10 ans, on sort une boîte de 4 puzzles que j'ai dessinés en même temps qu'un campagne et un super papier cadeau qui sera chez votre libraire à Noël.
Ça, j'ai passé.
Formidable.
Donc voilà, ça c'est cool. Et puis bah sinon, d'autres projets qui sont en cours de réflexion, entre autres avec Mathieu.
Oui, on aimerait bien. Oui, parce qu'en fait, ce carnet de campagne, c'est le premier volume d'une collection. Enfin oui, une collection, on peut dire ça. Une série, je sais pas comment dire.
La collection embarquée.
Embarquée, ouais.
Ah oui. Parce que c'est drôle, quand j'ai pris la BD, j'ai vu ce livre fait partie de la collection embarquée. Et puis quand je me suis plongé dans tes autres BD, il n'y avait pas d'embarqué. Du coup, c'est quoi la collection embarquée? En fait, ça vient de commencer.
Ouais, exactement.
D'accord. Et donc, c'est le même principe, mais...
Bah oui, c'est très simple à imaginer. Hein.
Mais t'es embarqué depuis 10 ans, en fait.
Des auteurs. Oui, mais là, l'idée, c'est de suivre, que moi, je suive d'autres projets, mais que j'accompagne juste en... côté éditeur quoi.
D'accord.
Donc ça veut dire lire.
Directeur de collection.
Ouais, directeur de collection. Mais j'ai du mal encore à le dire. Ça me plaît beaucoup d'ailleurs. C'est très chouette. Et donc là il y a des projets mais c'est un peu tôt pour.
Encore un truc, j'ai envie de faire pareil que toi quoi.
Voilà.
Ah oui. Tu voudrais faire éditrice?
Ouais, j'aimerais bien. Ouais, ouais,
ouais. Ouais, Mathieu.
J'adorerais. Ça fait partie des trucs. J'imagine que ça a été pareil pour toi, Mathieu. On a toujours des copains qui viennent nous montrer des trucs.
Ouais,
et
ouais.
Moi, voilà, je sais que ça m'arrive, quoi, de faire l'éditrice pour certaines personnes. Et le psy, non.
Ce serait quoi si c'était toi, une collection, quoi.
Alors, j'adorerais faire une collection de livres un peu comme ce que j'ai fait avec Marie Moto, c'est-à-dire du véritable roman graphique jeunesse. C'est-à-dire des livres hybrides, en fait, avec beaucoup de pages et qui se permettent d'être entre le roman et la BD et d'être très ouvert sur la tranche d'âge. Voilà.
Bon.
Ben voilà, il n'y a plus qu'à.
Avis au...
Mais j'en ai déjà parlé, j'en parle un maximum.
Voilà, voilà, alors, on fait passer le message.
Ça va se faire.
Du coup, je t'ai même coupé la parole pour pouvoir placer mon truc.
Ah oui, non, pas de problème.
Podcast, c'est pour ça. Ouais. Il y a ta BD, là, pas de baiser pour maman.
Ouais, bah voilà. Bah ça, c'est... Donc, elle sort la semaine prochaine, le 12 octobre.
Donc, d'après l'œuvre de Tommy Ungerer.
Et bah là j'ai complètement repris un livre de Tommy Ungerer, mais qui rentre tout à fait dans l'esprit. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, Dorothée, mais c'est un peu.
Mathieu nous montre.
Ça, c'est le livre d'origine hein, qui date de 73, oui. Et donc c'est du roman, c'est du petit roman écrit hein, par Ungerer avec des illustrations géniales, mais il y a beaucoup de textes. Tu vois, c'est rare chez Ungerer qu'il fasse autant de textes. D'habitude, c'est quand même des albums avec du texte. Là, c'est du texte avec des dessins. Et j'adorais ce livre quand j'étais enfant. Et Rue de Sèvres me proposait de faire ils me demandaient si j'avais des projets pour eux. Et puis je me suis dit, parce que eux ils font beaucoup d'adaptations du catalogue l'école des loisirs en version bande dessinée. Et je me suis dit, bah moi j'aimerais bien faire ce livre là. Mais je pensais que ça marcherait jamais parce que Tommy Ungerer c'est quand même un peu la figure intouchable. Et puis non, ils m'ont dit bah pourquoi pas. Et voilà, et donc j'ai fait un truc qui est très bizarre, c'est un bouquin je reprends complètement les images de Ungerer, mais je les transforme dans une forme BD. Et donc je remplis les espaces d'une image à l'autre. On voit ce que le texte suggère, mais cette fois en images. Et puis après, j'ai essayé de m'approprier le truc. J'ai rajouté aussi des séquences. Enfin, j'ai un peu dilaté le truc. Et il y a une version qui est la version noire là, où un cahier supplémentaire où là, je raconte à la première personne. Je me mets en scène. Le lien que j'ai avec ce livre, avec Ungerer, pourquoi, comment, et qui
est... Tu l'as rencontré, Ungerer?
Non, justement, je l'ai pas rencontré. J'ai rencontré sa fille, j'ai rencontré son éditeur historique, une de ses amies qui était aussi directrice du musée Ungerer. Enfin, j'ai essayé d'enquêter un peu. Mais lui, il est mort il y a 4 ans, donc...
Je l'ai rencontré 2 mois avant qu'il décède, quand il est venu à Paris faire, il est venu faire quelques dédicaces et tout. Et c'est mon agent Michel Lagarde qui a dit « Il y a Ungerer, c'est genre une des dernières fois que tu pourras le rencontrer. » Et on avait fait la queue ensemble. Et puis, voilà, il est décédé quelques mois plus tard. Mais ouais. J'ai ma petite théorie que j'ai l'impression que c'est cette tournée qui l'a tué. Parce qu'en fait, ça avait l'air... C'était vraiment la foule. Il y avait tellement de monde qu'il fallait repousser les gens.
Au moins, c'est chouette.
Du coup, je me demandais si tu l'avais rencontré à cette occasion-là.
Non, pas du tout. Non, mais après, moi, tu sais, aujourd'hui... Je fais attention à... Des fois, t'es déçu quand tu rencontres des idoles.
Oui, c'est vrai, ouais.
Et donc, soit les circonstances font que t'as l'occasion, et puis ça peut être un très bon moment, mais je provoque pas, moi, les occasions.
Oui, d'accord.
Mais après, c'est au cas par cas, je sais pas. Enfin, Schwarzenegger, j'étais content de le croiser. Hein,
c'était une idole.
Ah, c'est un...
Peut-être Conan. Pourrais-je dans ton prochain film.
Voilà.
Ah, moi, je l'ai rencontré quand il y a eu l'exposition des 50 ans de l'école des loisirs. Sur Ungerer.
Ouais. Sur Ungerer.
Ungerer.
Ouais, d'accord.
J'adore son boulot, mais je trouve que parfois en interview, il était un petit peu désagréable. Et en vrai, j'ai trouvé génial. Vraiment. Alors, c'était une bonne rencontre. Mais c'est vrai que la question se pose. Parfois, on peut avoir un peu de timidité ou peur d'être déçu et j'ai pas du tout été déçu. Et d'ailleurs ce jour-là, j'aurais pu aussi rencontrer François Hollande parce que il venait inaugurer l'expo et il y a eu un moment où mon éditeur me tirait pour que j'aille serrer la main à François Hollande, mais de l'autre côté, il y avait Tommy Ungerer et j'ai choisi Tommy.
T'as choisi Tommy Ungerer.
T'as bien fait.
Mais c'est ce qui est formidable avec un podcast, tu sais, comme Sens Créatif, on a presque 80 épisodes, ça nous permet de rencontrer tellement de gens, tu vois, c'est... Et j'avoue, j'ai jamais été déçu, je pense qu'on...
Ça se passe bien à chaque fois.
Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que ce serait pas le moment de la boîte à boxons?
Ah, c'est ça, on vous soumet un défi pour terminer. Alors, la voici, la voilà. Donc ça, c'est la boîte à boxons. En fait, on la propose à chacun de nos invités. Et au départ, il y a des questions pour toute la saison. Et chaque fois que les invités prennent une question, elle disparaît à jamais. Ah ouais. Donc voilà. Donc je vais ouvrir.
Il y a un clown qui ressort là.
Non, c'est jamais arrivé. Ça m'a fait la blague. Donc voilà. Alors, il faut une main innocente.
Vas-y.
Par contre, j'ai pas mes lunettes. Non.
Tu la tires, Mathieu la lira.
Elles sont là-bas.
Donc, t'arrives à lire? Non.
Non, j'arrive pas à lire. Vas-y.
Qu'aimerais-tu faire si tu redevenais un enfant le temps d'une journée?
Donc la question s'adresse à moi?
À vous deux. C'est votre question à vous.
C'est chaud. Hein.
On a le temps de réfléchir, ouais, ou de parler pendant ce temps.
Non, mais alors derrière cette question, il y en a plein. Parce que est-ce que tu redeviens enfant à l'époque où t'étais enfant, ou est-ce que tu redeviens enfant aujourd'hui?
Oui, et est-ce qu'avec c'est avec le monde de l'époque?
Alors, il y en a un de vous deux qui fait à l'époque, et il y en a un de vous deux qui fait aujourd'hui.
En fait, vous avez le droit de.
Donc, t'es aujourd'hui, vu que t'as des enfants.
Moi, si je pouvais revenir à l'époque où j'étais enfant, bah ouais, je choisirais une journée, un mercredi après-midi, je pense, ou un samedi, et puis je revivrais cette journée comme je les ai vécues, parce que j'ai globalement des bons souvenirs de mon enfance, mais en faisant gaffe à plein de trucs auxquels je faisais évidemment pas gaffe quand j'étais gamin, parce que ça me...
Parce que tu gardes ta conscience d'aujourd'hui.
Voilà, bah j'imagine. Enfin, sinon,
il choisit le contexte. Hein.
Voilà, et donc, oui, j'essaierai de capter au maximum... cette période qui, ouais, pour moi était une enfance heureuse, donc ouais, je suis preneur.
C'était quoi les BD que t'aimais quand t'étais petit?
Les Schtroumpfs, j'étais gros fan de Schtroumpfs, et je les recopiais, je les dessinais, j'avais fait un village avec les figurines de Schtroumpfs, j'avais donc dessiné aussi des figurines, des silhouettes des personnages à taille humaine qu'il y a dans les Schtroumpfs. Pas ouais. Les Schtroumpfs, mais les humains, enfin. J'étais complètement taré avec ça.
Je lis en ce moment Bonobris Fer à mon petit garçon qui a 4 ans. Et...
Bah, j'aimais bien, mais les Schtroumpfs, j'aime
beaucoup. Oui, bien sûr, ouais. Lui aussi. Voilà. Et toi, Dorothée,
du coup? Ce qui n'est pas évident, c'est que j'ai du mal à trouver quelque chose que je peux faire en tant qu'enfant que je ne peux pas faire aujourd'hui. À part être souple, quoi. Mais non, donc moi, je pense que je dirais oui à aller à l'école de voile au lieu de dire non.
Ok.
Ouais.
C'est un regret.
Ouais, c'est mon regret dans la vie. Ouais.
Ok. Bon.
Voilà, je dirais oui et je serais super heureuse sur un bateau.
Allez, le message est envoyé.
Voilà, parce que je pense que enfin, j'ai déjà été passagère et je trouve que c'est déjà l'endroit le plus formidable pour dormir.
C'est et vrai, t'as pas le mal de mer.
Ah non, moi je veux dire, c'est le pied total, c'est le pied mental, physique, c'est génial. Ensuite, être sur un gros bateau et voir la mer comme ça, à perte de vue, j'adore, ça me fait complètement triper. Donc pouvoir participer à ça de façon physique et totale, en sachant naviguer, ça me plairait.
Mais là, si tu vas sur le balcon, tu peux voir le canal Saint-Martin, c'est presque avec un peu d'imagination, t'y as presque, tu vois. Ouais.
J'aime pas tellement le canal Saint-Martin. Hein,
ah non?
Bon, mais là, ça va nous mener trop loin.
Ah, c'est du podcast, hein, c'est tranquille. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Dorothée. C'était
merci
formidable.
Merci pour votre temps, le partage.
Merci beaucoup.
Merci, Sens Créatif.
Oui. Oh là, oh là, oh là. Attendez, je crois que Dorothée de Manfred a encore un truc à vous dire.
Ah oui, je voulais parler d'autre chose aussi. Le tome 2 de ma série Marimoto vient de sortir aux éditions du Seuil Jeunesse. Ça s'appelle L'affaire des animaux disparus et j'espère que ça vous plaira. C'est un roman graphique en fait qui mélange roman et bande dessinée. Voilà.
Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas,
Everything is connected!
Tu reviens,
tu es parti loin, ras-le-bol d'être sage, tu te rêvais sauvage,
ce soir tu reviens.
Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens.
ont à regretter.
Tu es revenu,
mon petit bichon, maintenant tu es là. Soyons tous les trois
sauvages à la maison.
Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens.
Sage, ce rêve est sauvage, ce soir il revient.
Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.